7h, 9h.
Nicolas Aliagas sur Europe 1.
Bonjour à tous, nous sommes le mardi 4 juin. Bon réveil à vous. La France dépasse l'Allemagne. C'est la bonne nouvelle du jour que nous révèle le dernier baromètre Ernst & Young. Les investisseurs étrangers viennent chez nous plus qu'à Berlin. Pourquoi ? Quelles sont les forces françaises ? L'analyse de Nicolas Barré à 7h15. Les calanques de Marseille, le Mont-Saint-Michel, les gorges de l'Ardèche, les plus beaux paysages de notre pays sont-ils menacés? Le gouvernement envisage de simplifier les règles pour obtenir un permis de construire dans ces sites classés et leurs défenseurs tirent la sonnette d'alarme. C'est un dossier complet à découvrir à 7h20 dans Europe 1 va plus loin. 30 ans après la répression de Tiananmen, un invité exceptionnel ce matin, un dissident, l'écrivain chinois Liao Yiwu, et bien dans le plus grand secret, il a compilé les témoignages de victimes et puis il les publie dans son dernier ouvrage intitulé « Des balles et de l'opium ». Il sera mon invité à 7h45. Il n'y a plus de français à Roland-Garros. On vous en parle à 8h35 avec Corinne Boulou, Europe 1, radio officielle de Roland-Garros. Voici le programme. On commence tout de suite. Il est 7h du matin. On est ensemble jusqu'à 9h.
Et bon réveil à tous en ce mardi 4 juin. Et merci d'avoir choisi Europe 1. Votre matinale info, c'est jusqu'à 9h avec Nicolas Aliagas.
Le premier journal de la matinale est présenté par la talentueuse Hélène Zellani. Bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin.
Bonne nouvelle pour les retardataires qui devaient remplir leur déclaration de revenus avant ce soir. Ils ont 48 heures supplémentaires. Explication dès le début de ce journal. Les cheminots en grève, ils dénoncent la réforme ferroviaire comparée à un rouleau compresseur. Et puis les jolies colonies de vacances, comme disait la chanson, elles ont bien du mal à trouver des animateurs. Résultat des séjours purement et simplement annulés.
Et l'invité d'Audrey Crespo-Mara, 8h15, sera la députée européenne Les Républicains, Nadine Morano.
Bercy fait une fleur à tous ceux qui auraient dû déclarer leurs revenus avant ce soir minuit. 2 jours de plus, le délai s'étend donc jusqu'à jeudi minuit. Ce n'est pas juste pour faire plaisir aux retardataires. Chanel Petit, c'est parce qu'hier soir, le site des impôts a été carrément bloqué à cause de l'afflux de connexions.
Oui, plus de 4 millions de personnes connectées en milieu de soirée, chiffre donné par Gérald Darmanin, le ministre des Comptes Publics. Une affluence telle que le site de l'administration fiscale croit d'abord à une attaque informatique. Résultat, ce message d'erreur, le site est momentanément en maintenance. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée. Alors là, c'est la panique pour tous ces contribuables qui voient les heures défiler sans pouvoir envoyer leur déclaration. Ils interpellent la direction des finances publiques et même le ministre lui-même sur les réseaux sociaux. C'est une honte, c'est scandaleux, faites quelque chose s'il vous plaît. Vers 23h, il annonce donc ce délai supplémentaire sur son compte Twitter, hashtag administration bienveillante. Alors pourquoi ces millions de connexions en même temps hier soir? Il y a cette année beaucoup plus de personnes qui déclarent en ligne, c'est une première raison. Et puis sûrement un effet long week-end ensoleillé, un petit peu de procrastination. En tout cas, voilà ce qu'il faut retenir. Si vous habitez dans les départements du numéro 50, la Manche à 95, le Val-d'Oise ou en Outre-mer, vous avez jusqu'à jeudi minuit pour déclarer vos revenus. Essayez de ne pas vous y prendre au dernier moment. Le gouvernement n'exclut pas un nouveau bug ce soir. En tout cas, ce matin, ça marche très bien.
Les bonnes informations de Chanel Petit.
Merci, Chanel.
Gérald Darmanin qui lance aujourd'hui officiellement dans l'Oise le site internet du droit à l'erreur. Europe 1 vous le révélait dès hier. Oups! .gouv.fr va répertorier les erreurs les plus courantes des Français pour les aider dans leur démarche administrative. Espérons que là, il n'y aura pas de bug.
4 syndicats de la SNCF appellent à manifester à Paris contre la réforme ferroviaire.
Oui, CGT, CFDT, Sudrail et UNSA dénoncent une mauvaise réforme, des régressions sociales et demandent à être reçus à Matignon face au malaise au sein de l'entreprise. Écoutez Éric Meyer, secrétaire fédéral Sudrail.
Il y a un an, on avait Édouard Philippe et Elisabeth Borne qui nous disaient il n'y aura pas de fermeture de petites lignes. Aujourd'hui, les petites lignes ferment. Il y a un an, on nous disait il n'y aura pas de rationalisation des dessertes TGV. Aujourd'hui, il y a des dessertes TGV qui sont abandonnées. On nous a dit il y a un an, les cheminots déjà en place conserveront leur statut. Un an après, on a Guillaume Pépi qui dit « ce sera un nouveau pacte social pour tout le monde, même pour les agents déjà en place ». Donc voilà, entre les promesses d'il y a un an et les faits d'aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a quand même un grand écart. Je veux dire, là, on est sur une première manifestation nationale des cheminots. On verra par la suite, je veux dire, si ce sera nécessaire d'élever le niveau du rapport de force si on n'est pas entendu après la manifestation.
Le secrétaire fédéral Sudrail au micro européen d'Aurélien Fleureau. Manifestation qui part de la place d'Italie à 13h. A priori, les seules répercussions sur le trafic concerneront les TER des Hauts-de-France 1 sur 2 et du centre Val-de-Loire 1 sur 5. Une bonne nouvelle en Alsace, l'allemand Delticom qui vend des pneus en ligne va créer 300 emplois à Ensisheim dans le Haut-Rhin, une plateforme logistique qui sera mise en service dans un an. Europe 1, il est 7h04.
On va maintenant parler d'une terrible affaire, celle du calvaire de Karine Jambu, violée par un pédophile chez ses parents quand elle était petite.
Oui, le défenseur des droits s'apprête à rendre un rapport sur ce dossier pour tenter de comprendre comment les institutions ont pu aussi mal gérer le cas de cette fillette, dont les parents avaient pourtant été maintes fois signalés aux services sociaux. Salomé Legrand a pu consulter ce rapport pour Europe 1.
Sa conclusion est sans appel. Karine n'a pas été protégée. Dans son rapport de 35 pages que nous avons pu consulter, le défenseur des droits recense pas moins de 13 alertes en 9 ans, lancées auprès de plusieurs autorités sans succès. La famille a bien été prise en charge par les services sociaux, mais ceux-ci sont passés à côté de l'essentiel, écrit-il, et de lister les failles, manque de rapports écrits, ceux qui existent sont édulcorés, incomplets, sans les détails qui auraient dû conduire à placer l'enfant. 4 juges différents ont eu le dossier entre les mains, mais aucun n'a rencontré la fillette. Plus qu'une absence de réaction, il s'agit d'une sous-estimation du danger, résume le rapporteur, qui déplore que personne n'ait pris en compte l'intérêt supérieur de l'enfant. Et même s'il estime qu'un certain nombre de lacunes sont corrigées depuis 2007, il insiste sur son inquiétude face à la situation actuelle de la justice des mineurs, en cours de réforme et dont les moyens s'avèrent, je cite, « nettement insuffisants au regard des enjeux ».
Information signée Salomé Legrand. La famille de Karine Jambu sera reçue jeudi par le défenseur des droits. Elle compte s'appuyer sur son rapport pour faire condamner l'État pour faute lourde. Après le départ de Laurent Wauquiez, place à la reconstruction chez les Républicains. Cet après-midi, les responsables de la droite et du centre se réunissent à l'initiative de Gérard Larcher, le président du Sénat. Dans une interview au Figaro, Laurent Wauquiez met en garde ce matin contre l'éventuelle création d'un grand parti mou de centre-droit.
Europe 1.
Dans un instant, la suite du journal avec Hélène Zélani. Colonie de vacances, recherche, animateur, désespérément. A tout de suite dans la matinale d'Europe 1.
Il est 7h08, votre matinale info, Nikos Aliagas.
La suite du journal avec Hélène Zélani, c'est une crise des vocations dont on parle peu et elle concerne les colonies de vacances.
Oui, pour cet été, les centres de loisirs et les colos ont de plus en plus de mal à trouver des animateurs et des directeurs, des problèmes d'encadrement qui sont tels que certaines communes n'ont d'autre choix que d'annuler les séjours. C'est le cas à Cherbourg dans la Manche où s'est rendu François Coulon pour Europe 1.
Elle n'a jamais subi une telle pénurie en 19 ans de carrière. Guylaine Bourdonnet dirige une association laïque de séjours de vacances pour enfants à Cherbourg. Faute d'encadrement, elle ne pourra accueillir en août qu'une centaine de jeunes au lieu de 300.
Il me manque 2 directeurs et une vingtaine d'animateurs. C'est 200 enfants qu'on va devoir refuser.
D'où vient cette crise des vocations ?
Le coût de la formation BAFA, c'est 1000 euros. Et puis avançant dans leurs études universitaires, vont peut-être plus cibler des boulots en lien avec le métier qu'ils feront plus tard. Ça m'attriste, pour les enfants surtout.
En 3 ans, les brevets d'animateurs onéreux ont chuté de 50% dans la Manche. Salaire net ici 900 euros par mois pour 10 heures de travail quotidien. Des chiffres qui expliquent partiellement la défection de cet été. Beaucoup de parents sont désemparés.
Ça me bloque totalement. Vu que je suis au travail, mes enfants, je vais les mettre où ? J'arrête pas de me poser des questions. C'est panique à bâbord.
On va faire quoi des gamins ? C'est une grosse galère. On n'a déjà plus rien dans le quartier pour les enfants. On laisse pas des gamins comme ça dans la rue.
La pénurie est générale, les annonces sur toute la France sont restées vaines. Cherbourg, François Coulon, Europe 1.
La pression monte pour l'équipe de France féminine de foot. À 3 jours du mondial, Hélène Zélani.
Oui, aujourd'hui, Emmanuel Macron et sa femme viennent déjeuner avec elle au centre d'entraînement de Clairefontaine. Le couple va les encourager avant le match d'ouverture contre la Corée du Nord vendredi au Parc des Princes. Suite de notre série de portraits de joueuses tricolores avec ce matin Wendy Renard, championne avec Lyon et joueuse clé dans la défense des Bleus, Simon Rubin.
Enfant, Wendy Renard faisait déjà 3 têtes de plus que tout le monde. Ça lui a valu pas mal de moqueries. Pourtant, aujourd'hui, son 1m87 est l'une de ses forces. La défenseuse est devenue un pilier de l'équipe de France. Et son histoire commence par un arrachement. Le départ de Martinique à 16 ans pour intégrer l'Olympique Lyonnais. Un moment pas si difficile pour elle. Le foot balayait tout, primait sur tout, peu importe les sacrifices.
J'avais beaucoup d'énergie et il fallait que je dépense. Donc je faisais beaucoup de sport. Mais le foot, même à la récréation de l'équipe, si on n'avait pas de ballon, on prenait une bouteille. Quand la maîtresse elle me demandait, ben, je mettais non, je veux être footballeuse professionnelle, alors que ça n'existait même pas. J'avais cette détermination en moi et je pense que jusqu'à présent, je suis quand même assez contente.
Wendy Renard ou les vertus de la détermination sous cet air cool et relâché, la tôlière de 28 ans est une ambitieuse têtue qui gueule souvent dans le vestiaire. Catholique pratiquante, elle est convaincue que quand on croit en son destin, tout est possible.
Simon Rubin. Et le match d'ouverture, c'est bien sûr contre la Corée du Sud, vendredi. Emmanuel Macron, cet après-midi, va recevoir les messieurs champions du monde pour leur remettre la Légion d'honneur.
Merci Hélène Zélani, c'est trop court. Vous devrez rester un peu plus.
Restez.
Bonne journée.
À bon, demain. Ben je reste alors.
La matinale d'Europe 1.
Nico Saliagas.
Et il est 7h11, Nico, c'est comme tous les jours, Martin Fenot se trouve quelque part en France.
Il n'arrête pas, il vit dans le train, dans l'avion, il fait du stop. Bonjour Martin, vous êtes où ce matin ?
Bonjour Nikos, alors je vous appelle de Bretagne ce matin où les habitants, on le sait peu, sont touchés par une maladie génétique rare, maladie très ancienne, héritée des peuples celtes et qui s'appelle l'hémochromatose. Alors derrière cette maladie au nom barbare, il y a de la fatigue, des douleurs articulaires. Une personne sur 200 en est atteinte dans la région, à tel point que c'est la maladie génétique la plus fréquente en France. Et à Rennes, là où je me trouve, il y a opération dépistage aujourd'hui. Mmh. L'hémochromatose, alors c'est quoi ? C'est un excès de fer dans le sang. Et écoutez bien, Louis, les symptômes sont apparemment anodins.
C'est au retour d'un déplacement, je conduisais le véhicule. Et d'un seul coup, j'ai eu comme si on m'enfonçait des aiguilles dans l'épaule et je ne pouvais plus conduire. Parce que le problème, c'est qu'on est chargé en fer. Le fer s'accumule autour du cœur et autour du foie. J'ai eu une personne de mon entourage qui a eu le même problème, donc on n'était pas tout seul. Puis bon, à force de parler, on s'est rendu compte qu'il y a plein de gens autour de nous qui ont certainement ce symptôme, mais qui ne le savent pas.
Qu'est-ce qu'on risque si on n'est pas diagnostiqué à temps, Martin Fenot ?
Eh bien, la maladie provoque des cancers, des cirrhoses vers 40-50 ans, c'est potentiellement mortel. Et le seul traitement, c'est ce qu'on appelle une saignée, un prélèvement sanguin tous les mois. Alors au début,
ouais.
Exactement. Alors au début, Jacqueline, forcément, elle n'était pas rassurée.
J'ai eu peur parce que j'avais pas peur d'une prise de sang, mais la saignée, c'est quand même une grosse aiguille. Et puis, on vous enlève 400 millilitres, ça fait beaucoup. Mais je n'ai jamais baissé les bras. Et
si vous n'étiez pas traité, qu'est-ce qui se passerait pour vous aujourd'hui ?
Je pense que je ne serais plus là aujourd'hui. C'est une maladie qui peut être mortelle si elle n'est pas dépistée suffisamment tôt.
Et c'est une maladie sournoise parce que les gens qui ne sont pas dépistés à temps meurent d'un cancer, par exemple, et on apprend que plus tard que c'est l'hémochromatose qui en était responsable. Alors, si vous avez un doute, dépistez-vous, c'est très simple, une prise de sang suffit et c'est efficace.
C'est la semaine mondiale du dépistage de l'hémochromatose. Une dizaine d'hôpitaux bretons participent à cette opération toute la semaine. Merci Martin Fenot.
Nico Saliagas sur Europe 1.
À suivre l'édito éco avec Nicolas Barré. Nicolas, ce matin, bonjour.
Bonjour. Et avec une bonne nouvelle, les investisseurs étrangers plébiscitent la France.
Vous nous direz pourquoi dans quelques instants. À 7h20, les plus beaux paysages de France sont-ils menacés ? On parle des calanques de Marseille, du Mont-Saint-Michel ou encore des gorges de l'Ardèche. Le gouvernement, en fait, envisage de simplifier les règles pour obtenir un permis de construire dans ces sites classés. Dossier complet à suivre dans quelques instants dans Europe 1. Va plus loin. Bon réveil à tous sur Europe 1.
Il est 7h14. Il est 7h16. Les principaux titres de l'actualité à retenir ce matin, Nico Saliagas.
Journée de grève à la SNCF. Une manifestation est prévue à 13h à Paris. Pas de perturbations, sauf sur les TER des Hauts-de-France et du centre Val-de-Loire. Les syndicats dénoncent la réforme ferroviaire. 48 heures supplémentaires pour les contribuables qui devaient déclarer leurs revenus avant minuit ce soir. Eh bien, ils ont finalement jusqu'à jeudi minuit, et ce, à cause d'un bug sur le site internet des impôts. Le tennis, plus aucun Français à Roland-Garros. Benoît Paire et Gaël Monfils ont été éliminés en 8e de finale aujourd'hui. Match très attendu entre deux sportifs de la Confédération helvétique, Federer et Wawrinka.
Europe 1. Économie à présent, Nico, c'est l'édito éco avec la banque Tarnot pour ceux qui entreprennent au cœur des territoires. Banque Tarnot, une des 8 banques du groupe Crédit du Nord.
Avec Nicolas Barré, comme tous les matins, le directeur de la rédaction du journal Les Échos dans la matinale d'Europe 1. Eh bien, les investisseurs étrangers apparemment aiment la France. Ils considèrent que notre pays est même plus attractif que l'Allemagne. Pourquoi ?
Oui, alors ça peut sembler contradictoire par rapport à tous les sinistres industriels dont on parle le plus en ce moment. Ford qui a décidé de fermer son site de Blanquefort avec 850 salariés, General Electric qui veut supprimer plus de 1000 emplois à Belfort, etc. Et pourtant, bien au-delà de ces cas très douloureux, se cache une autre réalité, c'est que la France, effectivement, est le pays d'Europe qui attire le plus d'investissements étrangers juste après le Royaume-Uni, mais devant l'Allemagne pour la première fois, selon un recensement effectué par le cabinet de conseil EY. Il y a eu l'an dernier un peu plus de 1000 projets projets d'investissement. Et mieux, ce chiffre augmente en France, alors que le nombre de projets, globalement, recule partout en Europe.
Mais expliquez-nous pourquoi notre pays a plus la cote qu'avant.
Alors, d'abord, les réformes comme celle du Code du travail ou de la fiscalité des entreprises, mais aussi un discours beaucoup plus favorable aux investisseurs étrangers depuis l'élection d'Emmanuel Macron, ça joue forcément. Et puis, alors, en sens inverse, vous avez le Brexit qui, même si c'est toujours pas matérialisé juridiquement, pénalise le Royaume-Uni, ce qui fait que les investisseurs, notamment américains, regardent davantage ailleurs en Europe. Ce sont d'ailleurs les sociétés américaines qui ont le plus de projets d'investissement en France, nettement devant les Allemandes. Et puis j'ajoute un autre facteur très puissant qui est cité par de nombreux chefs d'entreprise, c'est la qualité de la recherche en France.
Bon, la recherche française à la cote ?
Ce qui est à la cote, oui, d'abord, c'est qu'on a un régime fiscal qui est très favorable avec le crédit d'impôt recherche qui permet de déduire des dépenses de recherche des impôts. Ça coûte 6 milliards par an à l'État, mais c'est efficace. Et puis d'autre part, les entreprises étrangères trouvent que on a en France des ingénieurs de très haut niveau, une recherche publique également de haut niveau. Il y a plus d'investissements étrangers dans des centres de recherche et développement français en France qu'en Allemagne ou au Royaume-Uni réunis. La crise des gilets jaunes nous a pénalisés, a fait une mauvaise publicité, mais la France a retrouvé une forte attractivité. C'est pas le moment effectivement de tout gâcher.
Donc le crédit impôt recherche est une niche fiscale qui est utile en fait.
Qui fonctionne, exactement.
Qui fonctionne. Nicolas Barré pour l'édito Éco. Merci Nicolas.
Europe 1, Nikos Aliagas.
Il est 7h19, Europe 1 va plus loin avec une question ce matin, Nikos. Les plus beaux paysages de France sont-ils menacés ?
Les calanques de Marseille, le Mont-Saint-Michel, les volcans d'Auvergne, les gorges de l'Ardèche. Eh bien, le gouvernement envisage de simplifier les règles pour obtenir, vous savez, un permis de construire dans ces sites classés. Bonjour Justin Morin.
Bonjour Nikos, bonjour à tous.
Et le réseau Grands Sites de France n'est pas content, il appelle le gouvernement à faire marche arrière. Dites-nous pourquoi.
Alors, vous avez cité plusieurs exemples de sites classés, je rajouterais la baie de Somme. Voilà, sa végétation unique, ses oiseaux, ses dunes de sable. La baie de Somme compte, comme 2500 autres sites classés, est protégée par une loi qui date de 1930. Et protégée concrètement, ça veut dire que pour tout projet de travaux ou de construction, disons d'une maison ou d'un hôtel, il faut l'accord du ministère de la Transition écologique. Mmh. Aujourd'hui, le gouvernement souhaite décentraliser cette politique, c'est-à-dire que les décisions ne seront plus prises à Paris, mais directement par les préfets départementaux.
Mais on peut comprendre la logique de ces décisions que ces décisions locales soient prises à l'échelon local, non ?
Oui, effectivement, c'est vrai. D'ailleurs, c'est ce que réclament depuis longtemps les élus locaux, principalement pour les petits travaux. Sauf que là, en baie de Somme, tous s'accordent à dire que la nouvelle règle va beaucoup trop loin, comme Alain Baillet. Il est maire de Fort-Mahon.
Il faut pour moi quand même que le ministère garde un peu la main sur certaines choses très sensibles. Vous savez, on ne sait jamais avec certaines lois, certains promoteurs qui d'un seul coup s'engouffrent. On a déjà eu des promoteurs qui voulaient construire carrément, presque avec une vue imprenable sur la mer, dans des endroits où c'est interdit. Donc on subit, on entend un peu cette pression. Il faut quand même rester très vigilant pour ne surtout pas détruire ce qu'ont préservé nos anciens.
Ce maire, on l'entend, hein, il nous parle de pression des promoteurs. Est-ce qu'elle est réelle, Justin ?
Oui, je vous confirme, des promoteurs et d'autres acteurs économiques. Ce sont des coups de téléphone, des promesses d'emploi et d'investissement pour le territoire. Et il y a beaucoup d'idées dans les cartons qui seront bientôt sur le bureau des préfets. Concrètement, c'est un projet de centrale photovoltaïque sur l'Île-Dieu ou encore des bacs de rétention d'eau en montagne pour alimenter les canons à neige d'une station de ski connue. J'ai rencontré Stéphane Aussoulier, c'est le président du syndicat mixte Baie de Somme Grand Littoral Picard. Lui, il a une crainte, c'est que mettre la pression sur un maire ou un préfet, ce soit beaucoup plus simple que sur un ministre.
Le préfet, lui aussi, même s'il a une grande capacité à résister, il peut être mis sous la pression de grands élus qui ont une plus grande capacité à lui tordre le bras, aimablement toujours. Voilà, il vit aussi dans un contexte. Et tout ça, à un moment donné, ça peut faire en sorte que peut-être que des décisions qui n'auraient pas été prises par le ministre sont prises par le représentant de l'État parce qu'il se dira, tout compte fait, peut-être que c'est une solution qui est acceptable au regard de critères que lui a définis.
Et ça s'appelle un arbitrage qui sera différent d'un préfet à l'autre. Alors depuis le début, les inspecteurs des sites, des fonctionnaires normalement soumis au devoir de réserve, sont aussi très remontés contre ce décret. Leur rôle, c'est d'émettre un avis éclairé sur les projets en question. Et eux s'inquiètent de l'érosion insidieuse des paysages. Que tout se fasse petit à petit, une montgolfière touristique au-dessus d'un lac, puis un petit train pour en faire le tour, puis une tyrolienne géante, etc., etc., explique David Cousin. Il est président de l'association des inspecteurs des sites.
On sait très bien que l'engouement pour ces aménagements-là génère des extensions. On est souvent débordé parce que on aurait eu le projet dans son ensemble d'emblée, on l'aurait refusé, mais les années passant, voilà, on on suréquipe des lieux qui ne le supportent pas, en fait.
Que répond le ministère de la Transition écologique ?
Eh bien, qu'il s'agit ni plus ni moins de poursuivre la décentralisation et d'accélérer les délais d'instruction des dossiers. Le but, c'est de passer de 6 à 4 mois en moyenne. Et ça, il faut l'avouer, c'était une demande claire des élus locaux. Mmh. Par ailleurs, le ministère gardera un pouvoir d'évocation, c'est-à-dire qu'il sera toujours habilité à émettre un avis si besoin.
Un pouvoir d'évocation, vous
Exactement,
dites.
D'évocation, ouais.
C'est pas un pouvoir de pression, c'est quoi ? C'est un avis consultatif.
C'est juste
en
un
fait,
avis consultatif à la demande des préfets s'ils le souhaitent.
Un décret aujourd'hui en consultation libre jusqu'à la fin du mois de juin. Il sera publié dans les mois qui viennent. On suivra de près les conséquences de son application. Merci Justin Morin pour ce dossier signé. Europe 1 va plus loin, à retrouver également sur le site d'Europe 1.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
À suivre l'innovation avec Anis Mbita. Qu'est-ce qui se passe chez Apple ? C'est fini iTunes ?
C'est fini iTunes, il a été découpé en 3 petits morceaux et c'est le temps parce qu'il était trop gros. Mais on va surtout parler des tablettes qui, elles, se transforment petit à petit en ordinateur.
Et non pas en voiture. A tout de suite, Anissé.
Un bon réveil avec Nikos Aliagas sur Europe 1, il est 7h24. Et les 7h26, EDF, partenaire de la transition énergétique, vous présente l'innovation du jour, l'innovation avec Anis Mbita.
Toujours à la pointe de ce qui se fait dans la technologie et dans l'innovation. Hier, c'était le lancement de la conférence annuelle des développeurs d'Apple. Et vous l'avez suivi, mon cher Anis Mbita, il y a pas mal d'annonces. Quelles sont les nouveautés du côté de l'iPhone déjà ?
Eh bien, bizarrement, c'est assez décevant du côté de l'iPhone.
Ah bon ?
Alors, il va bien y avoir l'arrivée d'un nouveau mode sombre. Ce sera plus joli, plus chic. On ne sera plus éblouir la nuit quand on allume son téléphone.
Ouais.
Sinon, les nouveautés sont plutôt mineures. Comme la possibilité d'écouter la musique à deux si on a des écouteurs sans fil, comme ça on partage plus son serre humaine.
Bon, ça c'est pas mal, mais bon, les autres nouveautés un peu plus marquantes, vous n'avez rien ?
Oui, il y en a pas mal, mais du côté de l'iPad cette fois, il va se transformer petit à petit en véritable ordinateur. Mm-hmm. Jusqu'ici, c'était grosso modo un iPhone avec un énorme écran. Et bien, désormais, il va avoir son propre système iPad OS. On va pouvoir enfin brancher des clés USB, on va pouvoir brancher une souris dessus, ouvrir deux documents Word en même temps. On pourra même utiliser la tablette comme second écran d'un ordinateur de bureau.
Et on peut directement connecter un clavier, ça existe.
Exactement,
déjà.
Oui, hein. Un clavier, oui.
Ça va marcher avec tous les ordinateurs ?
Eh ben non, c'est Apple, hein. C'est Apple, donc ça ne marchera qu'avec les Mac.
Ouais.
Le Mac, il va pouvoir, lui, utiliser les mêmes applications que l'iPad. Ça veut dire que l'inverse sera aussi possible, hein. C'est-à-dire que les applications Mac vont aussi arriver sur l'iPad, par exemple Photoshop, hein, le logiciel de retouche d'image.
Ou Lightroom, par exemple.
Vont arriver la même version avec les mêmes fonctions l'iPad, et ça, ce n'est qu'un début. Et c'est une vraie tendance, hein, qui n'est pas limitée à Apple. Chez Google aussi, on essaie de mieux différencier les tablettes et les téléphones avec Chrome OS par exemple. Donc on utilisera peut-être enfin les tablettes pour autre chose que pour regarder des films, consulter des documents.
Un dernier mot à propos d'iTunes.
Oui.
On a lu beaucoup de choses sur internet comme quoi c'était la fin d'iTunes,
non.
Que ils allaient privilégier le streaming maintenant et non plus la possibilité
non,
d'acheter
iTunes
et de télécharger.
Non, iTunes ne disparaît pas. iTunes devenait beaucoup trop gros, donc il a été découpé en 3 morceaux, en 3
D'accord.
applications. Il y aura exactement les mêmes fonctions, sauf qu'on les retrouvera dans l'application musique, dans l'application TV et dans l'application podcast. C'est plus tout dans un seul même programme.
D'accord.
C'est éclaté en 3, mais il garde les mêmes fonctions.
Merci Anis Mbita.
C'était l'innovation du jour avec EDF. Bâtiments durables, éclairages intelligents, mobilité électrique. Avec EDF, devenons l'énergie qui change tout. Plus d'infos sur edf.fr. Dans un instant, le journal de Céline Kahneman. Mais tout de suite, on retrouve Laurent Cabrol, Nikos,
pour
la météo.
Vous êtes plutôt tablette ou ordinateur portable, Laurent Cabrol ?
Les deux.
Ardoise.
Ardoise.
Minitel.
Bon, il n'y a pas d'ardoise avec le ciel aujourd'hui.
Non. Je suis plutôt portable. Alors, je voudrais vous dire simplement, chers amis, que nous allons vivre une journée orageuse, notamment sur le nord, la Picardie, la Haute-Normandie, l'Île-de-France, la Champagne-Ardenne, le centre et la Touraine. Orageuse parce que les orages sont actuellement en formation, même si on ne les voit pas. Ils seront là cet après-midi et parfois violents, parfois porteurs de grêle, donc soyez particulièrement vigilants. Des régions où le temps restera sec, Lorraine, Alsace, Bourgogne, Rhône-Alpes, Franche-Comté, Massif central, littoral méditerranéen, soleil et chaleur avec des 33 à 34 degrés, ce sera encore l'été dans toutes ces contrées.
Mmh.
Et puis des pluies espacées sur la Bretagne, le Cotentin. En ce moment, il pleut le long de la vallée de la Loire, mais ces pluies vont s'espacer un tout petit peu. Dans l'ensemble, vous allez voir, c'est une journée assez agitée sur la moitié nord et plutôt calme sur le sud et l'est.
Merci beaucoup Laurent Cabrol, à tout à l'heure. C'est la Sainte Clotilde, tiens, aujourd'hui. Bonne fête à Clotilde Courau. À suivre, Jean-Michel Apathy à 7h40. Faut-il supprimer l'avion entre les villes françaises quand on peut prendre le train ? Le gouvernement n'est pas très chaud, mais l'idée est lancée. À 7h43, Axel de Tarlé qui nous racontera la guerre du petit électroménager. Les low cost copient les grands et c'est l'emploi qui trinque. Et à 7h45, je reçois, 30 ans après la répression de Tiananmen, un invité exceptionnel ce matin, un écrivain dissident chinois, Liao Haiwu, qui vit en exil en Allemagne. Dans le plus grand secret, il a compilé des témoignages de victimes et il les publie dans son ouvrage intitulé « Des balles et de l'opium ». Excellent réveil à tous sur Europe 1. À tout de suite.
Nous sommes le mardi 4 juin, il est 7h30.
7h, 9h.
Nico Saliagas sur Europe 1.
Mademoiselle Kalman, bonjour.
Bonjour Nikos, bonjour à tous. Un parti sans tête et dont les candidats ne se bousculent pas pour en prendre la direction. Le départ de Laurent Wauquiez après la débâcle des européennes laisse place à un gros chantier pour les Républicains. Dans une interview au Figaro, le président démissionnaire affirme que la droite n'est pas à vendre à la découpe. Les élus sont dragués de toutes parts. Les militants, eux, ne savent plus sur quel pied danser mais espèrent une reconstruction solide de leur parti. Lionel Gougelot est allé à leur rencontre dans le Nord pour Europe 1.
Laurent Wauquiez parti, Guy Noël Sellière, militant lillois, espère que cela va donner de l'oxygène aux Républicains.
Ça va ouvrir les fenêtres, ça va permettre de discuter, ça permet de dialoguer sereinement, ça va permettre d'éviter d'être caricaturé. Maintenant, c'est place à la reconstruction, la refondation.
Une refondation pour un nouveau projet qui doit rompre avec la ligne identitaire, plus ouvert aux préoccupations des Français.
Il faut que la droite puisse aborder des sujets sur lesquels on ne l'attend pas, sur les sujets sur l'environnement, qui est une préoccupation majeure des Français, sur les sujets sociétaux, comme la fin de vie, des sujets où on n'entend pas beaucoup la droite, ou alors sur des positions très conservatrice. Aujourd'hui, les LR, ça doit être un parti d'ouverture qui doit rassembler le centre-droit à la droite humaniste. Le parti, en fait, c'est simple, il doit redevenir l'UMP qu'il était avant.
Mais pour survivre entre La République En Marche et le Rassemblement National, une priorité selon Sébastien Leblanc, secrétaire adjoint des Républicains dans le Nord, renouer avec l'électorat populaire.
Ces Français qu'on laisse de côté, et que d'ailleurs la machine Macron laisse de côté, et que Madame Le Pen aujourd'hui essaye de raccrocher mais sans apporter de solution, on sait qu'on peut leur parler. Et c'est évidemment cette voie-là dans laquelle on doit s'engouffrer.
Mais surtout, supplie ces militants que nos dirigeants nous épargnent une nouvelle guerre des chefs parce que là, on sera définitivement mort. Lille, Lionel Gougelot, Europe 1.
Et notez que Nadine Morano, qui ne s'est pas encore exprimée après le départ de Laurent Wauquiez, sera à 8h15 l'invité politique d'Audrey Crespo-Mara sur Europe 1.
Et cet après-midi, Gérard Larcher, le président du Sénat, va réunir les dirigeants de la droite et du centre pour évoquer l'avenir du parti. 3 millions de Français ont attendu le dernier moment. Ils se sont connectés hier soir en l'espace de 30 minutes sur le site des impôts. Résultat,
boom,
une surchauffe du site avec pour certains l'incapacité de déclarer ses revenus. Alors ne vous inquiétez pas si vous faites partie de cela. Le ministre des Comptes Publics accorde un délai de 48 heures supplémentaires après ces perturbations informatiques. Gérald Darmanin qui lance aussi aujourd'hui un site internet dont on vous parlait dès hier sur Europe 1 dédié au droit à l'erreur. Il porte bien son nom, ça s'appelle oups.gouv.fr. Objectif, répertorier les erreurs et aider aux démarches administratives. Peu de répercussions sur le trafic, annonce la SNCF. 4 syndicats appellent à manifester cet après-midi à Paris contre la réforme ferroviaire. Ils dénoncent des régressions sociales.
2 djihadistes français condamnés à mort hier en Irak, 11 au total en une semaine.
Et une question ce matin, y aura-t-il bientôt un tribunal international spécial pour juger les combattants de l'État islamique? 11 pays, dont la France, se sont réunis hier à Stockholm pour étudier le sujet. Sujet qui sera au menu d'une réunion des ministres de l'Intérieur des 28 pays de l'Union, vendredi, Théo Manval.
La piste qui se dessine est celle d'un tribunal spécial installé sur place, en Irak. Cela faciliterait la recherche de preuves et de témoins et aurait l'avantage d'éviter un retour des combattants, même emprisonnés, sur le sol européen. Car c'est bien le but avoué à demi-mot par un diplomate français, avoir un tribunal qui n'applique plus la peine de mort à laquelle Paris s'oppose, tout en jugeant les djihadistes là où ils ont commis leurs crimes, c'est-à-dire loin de l'Hexagone. La France participe donc aux réflexions initiées par la Suède, avec aussi l'Allemagne ou le Royaume-Uni. Le sujet sera à l'ordre du jour d'une réunion vendredi des ministres de l'Intérieur des pays de l'Union européenne. Mais il reste de nombreux points à éclaircir. Quel financement, quel juge et surtout quel spectre pour les poursuites? La Suède voudrait que ce tribunal juge tous les coupables de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité dans la zone, c'est-à-dire aussi des membres du régime syrien. Difficile d'imaginer que l'allié russe apporte son soutien dans ces conditions. Le projet doit être abordé en marge de la prochaine Assemblée générale des Nations unies au mois de septembre.
Théo Manval pour Europe 1. L'ONU qui doit se réunir cet après-midi à huis clos pour évoquer la situation au Soudan. Hier, la dispersion d'un sit-in a fait 30 morts à Khartoum et des centaines de blessés. Ce matin, les militaires qui gouvernent le pays depuis la chute d'Omar el-Béchir ont appelé à des élections dans un délai de 9 mois.
Europe 1, il est 7h34.
Vous vous réveillez, vous préparez, vous êtes en train de regarder votre téléphone portable, vous tweetez en écoutant la matinale d'Europe 1. Oui, les écrans matin, midi, soir, partout, tout le temps. Il y en a marre, il y a une mauvaise habitude à perdre.
N'est-ce pas, Nikos?
Absolument.
Une étude révèle ce matin qu'un tiers des Français est scotché à son smartphone ou sa tablette systématiquement lorsqu'il est en train de manger. La moitié des 18-34 ans sont concernés. Aude Vermicchio.
Qu'il s'agisse d'un déjeuner seul au bureau, d'un repas entre amis ou d'un dîner de famille, pour la moitié des 18-34 ans, il est devenu presque impossible de ne pas jouer sur sa tablette ou consulter son téléphone en mangeant. Exemple à cette terrasse de café.
Si je suis seule, en tous les cas, c'est sûr, mais s'il y a quelqu'un que j'ai une notification, un message, je l'ouvre tout de suite.
C'est devenu une habitude, quoi, donc limite, il n'y a même plus de remarques vis-à-vis de ce comportement.
Avec des déjeuners de collègues, on peut être 10 à table et très rapidement, je peux voir que 8 personnes sur 10 sont sur leur téléphone. Je peux dire, les gars, on peut se reconcentrer ensemble et on range le téléphone. Voilà.
Et pourtant, 53% des sondés estiment que le repas est un moment de partage, mais ils n'arrivent pas pour autant à déconnecter, jusque dans l'intimité, constate le docteur Lovenstein, addictologue.
Quand on voit aujourd'hui des couples sur leur smartphone en permanence en train de déjeuner ou dîner, est-ce qu'ils n'ont plus rien à se dire ? Ou est-ce qu'on est dans une addiction ? C'est-à-dire que la personne avec son écran, elle est devenue tellement dépendante de son activité qu'elle ne développe pas ce lien social suffisamment.
Et pour garder ce temps d'échange à table, ce médecin recommande très simplement de mettre son téléphone en mode avion et de ne pas poser sa tablette près de son assiette pour éviter toute tentation.
Mode avion, Nico, c'est pas compliqué quand même.
Oh, attendez, je vais le faire.
Un duel 100% suisse qui s'annonce passionnant cet après-midi à Roland-Garros. Roger Federer face à Stan Wawrinka. Faut-il rappeler qu'il n'y a plus de Français depuis hier. Gaël Monfils, Benoît Paire, tous deux battus. À suivre aussi Rafael Nadal face au Japonais Nishikori.
Rendez-vous à 8h35 dans la matinale. On parlera avec Corinne Boulou de l'actualité de Roland-Garros puisque Europe 1 est partenaire officiel, la radio officielle de Roland-Garros. Le journal de 7h30 était présenté par Céline Kallmann. Merci Céline, à demain.
Nico Saliagas sur Europe 1.
À suivre, la politique avec vous Jean-Michel Apathy.
Oui, figurez-vous que des députés veulent supprimer les vols commerciaux, les avions qui transportent les passagers entre Paris et Marseille ou Paris et Bordeaux. Alors c'est assez radical, mais l'argumentation n'est pas bête, c'est pour lutter contre le réchauffement climatique.
Vous nous direz si vous êtes pour ou contre.
Pour.
Vous êtes pour. Axel de Tarlé.
Les magasins Lidl hier ont été dévalisés pour leur robot cuiseur qui est une copie en 4 fois moins cher du fameux Thermomix.
On a vu ça. Vous nous direz combien ça coûte et pourquoi ?
Voilà, j'ai même des vidéos qui montrent les scènes de... dans les magasins Lidl. Ouais.
Vous avez des vidéos, on va les partager sur,
voilà. Il a des vidéos.
Sur les réseaux sociaux avec le hashtag Europe 1. Apathy Tarlé dans un instant, tout de suite.
Il est 7h37. Il est 7h40, Nico Saliagas, c'est l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy.
Mon cher Jean-Michel Apathy, faut-il supprimer ou pas les liaisons aériennes entre les villes françaises déjà reliées par le train ? C'est ce que propose en tous les cas l'ancienne ministre de l'écologie Delphine Batho pour lutter contre les émissions de CO2 et le gouvernement répond « c'est pas sérieux ».
Non, le gouvernement dit « c'est pas sérieux ». Alors, peut-être que le gouvernement a raison, mais l'amendement de Delphine Batho est redoutablement intelligent et un peu déstabilisant. Alors, cet amendement est déposé par l'ancienne ministre de l'écologie, puis aussi un amendement similaire est déposé par François Ruffin de la France Insoumise dans le cadre d'une discussion qui a commencé hier à l'Assemblée nationale et qui concerne les mobilités, comment on va se déplacer dans les villes et à travers le pays. Alors, cet amendement de Delphine Batho propose de supprimer les liaisons aériennes entre les villes qui sont reliées par le train en moins de 5 heures. Entre l'avion et le train, choisissez plutôt le train. Alors, c'est Paris-Bordeaux, Paris-Nantes, Paris-Marseille. Paris-Marseille, il faut un peu plus de 3 heures en train, 1h20 en avion, il y a 35 vols quotidiens quand même, hein, Paris-Marseille, et retour bien sûr, Marseille-Paris. Alors, ce que dit cet amendement, son argumentation, c'est qu'il faut lutter contre le réchauffement climatique, c'est une priorité. Or, il faut savoir qu'un voyageur aérien produit 70 fois plus de CO2 qu'un voyageur ferroviaire. Donc, la logique, c'est supprimons les avions si on peut prendre le train. C'est pas bête. Le réchauffement climatique, on peut pas dire il faut lutter contre. Et puis, ne jamais rien faire, dire tout le temps « Ah oui, faut lutter, mais pas ça, pas comme ça, il faut bien faire quelque chose ». À l'appui de son argumentation, Delphine Batho produit deux chiffres qui sont issus de rapports, soit du GIEC, soit de la Météo Nationale, et deux chiffres sur lesquels, peut-être, il serait bon de réfléchir un peu ce matin. Aujourd'hui, 2020, les températures maximales que l'on constate sous l'effet du dérèglement climatique en France varient entre 42 et 49 degrés. En 2050, c'est-à-dire dans 30 ans, c'est-à-dire vite quand même, les températures maximales pourront aller de 51 à 55 degrés. 55 degrés, 10 et les climatologues, ça rend la Terre inhabitable en France. Pas pas je sais pas où, mais chez nous. Toute la bande est de la France pourrait être concernée, notamment. Et puis, les climatologues disent un deuxième chiffre. Aujourd'hui, 2020, les canicules peuvent durer en moyenne 2 semaines. En 2050, ça pourrait être 8 semaines. C'est-à-dire des périodes qui seraient harassantes pour les organismes humains. Donc, il faut faire quelque chose. Le gouvernement dit, cet amendement est stupide. Bien sûr qu'il est stupide, mais le réchauffement climatique est stupide. La situation qui nous est faite là, dans 30 ans, c'est stupide, bien sûr. Nous sommes confrontés à la stupidité, donc, oui, peut-être faut-il supprimer les avions. Cet amendement n'a aucune chance d'être adopté. Il n'y a pas de majorité pour l'adopter. D'accord. Il sera discuté la semaine prochaine ou la semaine suivante, mais méditons quand même sur ce chiffre.
Qu'est-ce qu'il pose
quand
comme question ?
Quand à l'été 2050, on souffrira de 8 semaines de canicule, eh ben on dira vivement l'hiver. Donc, peut-être qu'il serait temps d'agir avant.
Jean-Michel Apathy, Axel de Tarlé, bonjour.
Bonjour, et j'ajoute sur ce papier qu'en Hollande, ça va se faire. Les Hollandais veulent interdire l'avion entre Amsterdam et Bruxelles en disant « il y a un TGV aussi rapide ».
Non mais attendez, mais le concurrent, si le concurrent il maintient ses vols, toi tu fais quoi ?
Ah non, mais interdiction d'avoir des vols au départ d'Amsterdam pour Bruxelles.
Vous ne survolez plus le territoire.
Bon, la guerre du petit électroménager. Les low cost copient les grands. Et ce matin, la victime s'appelle Thermomix.
Voilà, moi je vais parler cuisine ce matin. Je ne sais pas, Nico, si vous êtes un fan de cuisine. En matière de robot cuiseur, il y a une Rolls qui s'appelle le Thermomix, qui a été vendu en France à 2,5 millions d'exemplaires. Vous savez que même les grands chefs utilisent ce Thermomix parfois pour vous concocter des bons petits plats. Mais voilà, ce robot a un prix, il est vendu quand même, pour la dernière génération, 1300 euros pièce. Alors pourquoi il a ce prix ? Le Thermomix, c'est la qualité allemande, c'est un robot d'origine allemande. Et la main-d'œuvre est française. Ce robot est fabriqué en France, à côté de Châteaudun. Et alors hier, coup de tonnerre, Lidl a dégainé dans ses magasins une imitation de ce Thermomix vendu 4 fois moins cher. Alors, tout est fait pour copier le Thermomix. Même apparence, même bouton, même recette intégrée. Tout est pareil, sauf le prix. 359 euros. Autant dire que les magasins Lidl ont été dévalisés. Hier, sur Internet, on voit des vidéos ahurissantes qu'on vous a mis à écouter.
Là, quelques instants.
Très impressionnant. Vous n'avez pas vu des queues aussi impressionnantes
dans
les magasins
depuis longtemps. Oui, il y avait des centaines de gens qui faisaient la queue devant les magasins Lidl.
Bon, alors c'est made in où le nouveau Thermomix là ?
C'est 4 fois moins cher, mais ça vient d'où ? Il est made in Châteaudun, alors que la copie, elle est made in China.
D'accord.
Mais l'UFC Que Choisir a comparé les deux appareils, et la copie est bonne. Alors forcément, l'original est un peu mieux, mais enfin, l'UFC Que Choisir conclut son enquête en disant au sujet de ce robot Lidl, l'essentiel y est et le prix est imbattable.
Qu'est-ce que ça veut dire, Axel de Tarlé, que les salariés de l'usine française qui fabrique le Thermomix ont du souci à se faire ?
Eh bien écoutez, il n'y a pas de secret. Ça veut dire que si on veut continuer à fabriquer en France, il faut innover en permanence.
Ou baisser les prix.
Et là, bah oui, mais ça, on ne peut pas baisser les prix. On a des prix et des charges. En France, on ne peut pas. La Chine sera toujours moins chère. Mais la bonne nouvelle, Nikos, c'est que c'est possible. Et on en a la preuve. En France, nous avons Seb. Seb, entreprise française, qui est le numéro 1 mondial, vous entendez, mondial du petit électroménager. Pourquoi ? Parce que Seb a toujours un coup d'innovation, un coup d'avance en matière d'innovation. Ils ont inventé, par exemple, l'Actifry. C'est idiot, c'est pour faire des frites sans huile. C'est vendu très cher, mais ça cartonne. Ça a été vendu à des millions d'exemplaires. En ce moment, ils sortent le Steam Up, qui permet de faire la vapeur, mais les légumes conservent leur goût. Vous savez, ils n'ont pas ce goût délavé. Ça va être un carton. Il n'y a pas de secret. Si pour produire en France, il faut être meilleur que les autres, pour justifier des prix plus élevés et des salaires plus élevés.
Et il n'y a pas de secret, hein, le Zoomeco sans Axel de Tarlé, ça n'aurait pas la même saveur. Merci beaucoup, cher ami.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
Dans un instant, un invité exceptionnel ce matin sur Europe 1. 30 ans après la répression sanglante de la place Tiananmen, je reçois un écrivain dissident, le chinois Liao Yiwu. Et dans le plus grand secret, pendant plusieurs années, il a compilé des témoignages de victimes. Il les publie dans son dernier ouvrage, Des balles et de l'opium. Il a lui-même été emprisonné. Voici son interview dans quelques instants.
Il est 7h47, Nikos, 30 ans après la répression sanglante de la place Tiananmen à Pékin. Vous recevez ce matin l'écrivain chinois Liao Yiwu. Dans son dernier livre Des balles et de l'opium, publié aux éditions du Globe, il compile les témoignages de victimes. Lui-même a passé 4 ans en prison pour un poème.
Bonjour Liao Yiwu. Ni hao.
Ni hao.
30 ans après Tiananmen, il y a une image que l'on retient. C'est aussi le dessin de la couverture de votre ouvrage, Des balles et de l'opium. Elle a fait le tour du monde, c'est celle de cet étudiant chinois qui s'est dressé, les bras écartés devant les chats. Est-ce que vous savez ce qu'il est devenu ?
Par la suite, il a complètement disparu. On pense que son nom est faux. Mais dans mon livre « Des ballets de l'opium », il y a beaucoup de gens qui ressemblent à ce Wang Weilin. Eux aussi ont empêché l'armée d'entrer dans Pékin. Et tout ce qu'ils ont fait ce jour-là, c'était aussi courageux que ce qu'a fait Wang Weilin. Sauf que c'était une action conjointe et qu'elle a été oubliée.
Ce que vous dites dans votre ouvrage, c'est que les héros étaient surtout des gens ordinaires, pas forcément des militants ou des étudiants ou des intellectuels.
En effet, je n'ai pas interviewé un seul étudiant. La plupart des étudiants sont partis, alors que les gens ordinaires sont restés et ils ont bravé le destin des chars et des mitraillettes. C'est pour ça que j'ai pensé que c'était vraiment important d'écrire ce qui leur était arrivé.
Vous avez passé 4 ans en prison vous-même, Liao et Wu. Dans votre livre, vous compilez tous ces témoignages de victimes de cette révolte. Y en a-t-il un qui vous a marqué plus que d'autres ?
Celui dont je me souviens le plus précisément, c'est peut-être Wu Guofeng. C'est un étudiant qui avait eu un appareil photo et qui voulait garder la mémoire de tout ce qui se passait. Mais il est tombé sur un assassin qui l'a visé avec sa baïonnette. Lui n'a pas voulu lâcher sa caméra, il s'est emparé de la baïonnette et le soldat, lui, a planté la baïonnette dans sa poitrine. Au moment où il s'est tombé par terre, il a continué à fixer son assassin, un peu comme si c'était une télévision qui enregistrait tout ce qui se passait. Cette histoire, ça m'a vraiment bouleversé.
Mais dans tous ces témoignages, il y a ce sentiment très fort, Liao et Wu, celui d'avoir fait tout ça pour rien. Est-ce que c'est le cas ?
Bien sûr, il n'y a pas eu de bons résultats jusqu'à présent. Cette année-là, je peux dire que c'était des vrais héros, et on le voit dans ce livre. Mais ils ont fait beaucoup, beaucoup d'années de prison, ils ont été oubliés complètement, et quand ils sont ressortis, c'était des gens complètement marginalisés. Ils ne regrettent rien, mais ces malheureux héros sont des héros sans résultat.
Vous avez des mots durs, évidemment, dans cet ouvrage contre le régime chinois. Est-ce que les choses ont changé aujourd'hui ? Comment est-on passé d'un communisme pur et dur à une flambée capitalistique, puisqu'aujourd'hui, il y a des centaines de milliardaires et des milliers de millionnaires en Chine ?
Oui, en 1989, les Chinois avaient encore un idéal. Ils voulaient réaliser la démocratie dans leur pays. Mais le résultat, c'est qu'il y a eu une alliance entre le capitalisme et la dictature. Maintenant, est-ce que à nouveau le peuple pourrait se lever contre le gouvernement ? C'est pas sûr, parce que maintenant le gouvernement utilise l'intelligence artificielle pour surveiller tout son peuple. J'ai l'impression que le roman de Orwell, 1984, s'est enfin réalisé en Chine, dans une Chine hyper technologique. Et c'est le capitalisme qui a permis à la Chine de perfectionner ses technologies de surveillance pour une extrême dictature.
Si c'était à refaire, vous referiez la même chose aujourd'hui, après tout ce que vous avez enduré ?
Évidemment, parce que j'aspire tellement à la liberté. Donc j'ai écrit un poème sur le massacre qui m'a valu ma prison, mais je le referai quand même. Au moment de mon procès, deux policiers ont amené une caisse dans laquelle il y avait des centaines de cassettes de ce poème qui avait été enregistré. Et ils nous ont dit, vous avez vu, vous êtes vraiment un contre-révolutionnaire, vous avez fait beaucoup de mal à la Chine en diffusant ces cassettes. Et pendant qu'ils me faisaient ces reproches, je ne comprenais pas ce qu'ils me disaient. Je trouvais que c'était tellement bien ce que j'avais fait.
Votre idéal pour la Chine, vous pensez qu'il se réalisera un jour ?
Je n'ai plus d'idéalisme pour la Chine. C'est un pays qui s'est transformé en une énorme poubelle. Mais par contre, pour ma province du Sichuan, Oui, je garde cet idéalisme. Je pense qu'un jour, le Sichuan sera indépendant et que toute la Chine sera disloquée en plusieurs pays. Ça, c'est mon rêve.
Dernière question, votre livre s'intitule « Des balles et de l'opium ». Pourquoi ce titre ?
Les balles, ben vous comprenez, mais après, pour faire oublier aux gens ce qui s'était passé, ils ont utilisé l'opium, c'est-à-dire le consumérisme. À l'époque, les Anglais ont importé l'opium en Chine. Maintenant, ils ont utilisé l'argent, la consommation, toutes ces méthodes superficielles pour que les gens soient addicts et oublient complètement le passé. J'espère que le président Macron, qui est un jeune président, sera plus fort que l'attrait de l'opium. J'espère que les politiques français seront vigilants.
Merci d'avoir été avec nous, Liao Yewu.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
À suivre, la France plus attractive que l'Allemagne. C'est la bonne nouvelle du jour. Les investisseurs étrangers viennent chez nous plutôt qu'à Berlin. Détail et analyse du service économie d'Europe 1 dans le journal du 8h. Et puis dans une minute, la petite histoire qui fait du bien. La petite histoire de Jean-Philippe Ballas. À tout de suite.
Il est 7h57, c'est l'heure de la petite histoire du jour, Nikos.
Avec Jean-Philippe Ballas, c'est ce matin une petite vie qui défile. En 3 minutes.
Ouais, c'est la vie de Madison et c'est la chose que tous les parents ont imaginé faire un jour. Filmer sa progéniture chaque année à date fixe. Au bout d'un certain temps, on en fait un montage et on voit ainsi ses enfants grandir à l'écran. Oui, oui, on se dit que ça serait chouette. Et puis la vie passe et en général, on oublie. Alors, rendons hommage ce matin à monsieur Kevin Scruggs, heureux papa, qu'il a fait lui en vrai. Pendant 13 ans, Kevin a interviewé sa fille, Madison, le jour de chaque rentrée. La toute première fois, elle a 5 ans, gamine rigolarde dans le canapé qui raconte qu'elle adore sa classe, qu'il y a des petites tables, des petites chaises. Puis Madison grandit, queue de cheval, boule de glace. Oui, oui, elle aime toujours l'école, mais bon, maintenant il y a aussi des devoirs. Année suivante, tiens, Madison porte un appareil dentaire. Et puis la voici ado, avec son casier, pour elle toute seule au collège. Toujours souriante, Madison, mais bon, comment vous dire, ado, quoi. Le plus touchant, c'est la voix du père Kevin, qu'on ne voit jamais, c'est lui qui filme, mais qu'on entend rigoler, notamment quand il dit non à sa fille, devenue grande, qui lui demande si elle peut enfin aller en soirée. On arrive maintenant à la fin de la vidéo. C'était il y a quelques semaines, Madison a 18 ans maintenant, une jolie jeune femme qui va entrer à la fac et qui sourit encore avec pas mal de tendresse à son père qui a grandi lui aussi. Voilà, cette vidéo, ce montage a été partagé des centaines de milliers de fois aux États-Unis et à travers le monde ces derniers jours. C'est tout simple, c'est tout bête. Mais vous savez quoi ? Ces 3 petites minutes ont bien quelque chose d'universel. Just the two of us. We can make it if we
try. Merci Jean-Philippe Ballas pour cette jolie petite histoire qui nous fait sourire et réfléchir. À demain.
À suivre le journal de David Doucan et tout de suite la météo avec Laurent Cabrol.
Et avec les orages, alors je le disais la semaine dernière du bout des lèvres, mais cette fois je le dis avec un petit peu plus de conviction, nous entrons dans une zone orageuse et dans une période orageuse qui risque d'être durable et qui risque d'être parfois violente. Et c'est le premier jour de cette série de journées orageuses qui vont nous affecter maintenant. Alors aujourd'hui, c'est le Nord, la Picardie, la Haute-Normandie, l'Île-de-France, surtout la Seine-et-Marne, la Champagne, les Ardennes, le Centre et la Touraine qui seront concernés dans l'après-midi par ces orages parfois violents, porteurs de grêle. Et nous aurons aussi sur la Bretagne, les Pays de la Loire, le Cotentin et le Poitou-Charentes, un temps orageux, mais c'est plutôt de la pluie un peu plus calme. Et puis dans les régions de l'Est et du Sud, eh bien nous aurons là du soleil et de la chaleur. Il va faire très chaud, 31 à 34 degrés dans ces contrées, alors que là où les orages vont éclater, ce sera entre 23 et 28.
Merci beaucoup Laurent Cabrol, à tout à l'heure.
Et merci d'avoir choisi Europe 1 ce mardi 4 juin. Excellent réveil à tous, il est 8h. Votre matinale info continue jusqu'à 9h avec Nikos Aliagas.
Le journal de 8h présenté par David Doucan. Bonjour David.
Bonjour Nikos, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin.
Les investisseurs préfèrent la France à l'Allemagne. Voilà qui vous surprend sans doute. Alors pourquoi sommes-nous plus attractifs ? La réponse dès le début de ce journal. Nous avions jusqu'à ce soir pour déclarer nos revenus, mais le site internet des finances publiques a craqué. Un délai est accordé jusqu'à jeudi minuit. Un champ de ruines est-il le terrain le plus propice pour rebâtir ? En tout cas, la droite n'a pas le choix. À quoi peut ressembler l'après-Vauquier ? Les informations d'Aurélie Herbemont dans un instant. Et enfin, une fois n'est pas coutume, Donald Trump était hier soir dans ses petits souliers. Le président américain dînait avec la reine d'Angleterre à Buckingham Palace. Récit dans cette édition.
8h12, le Soudan est-il en train de sombrer dans la guerre civile ? L'analyse de Jean-Sébastien Soldaini. 8h15, Audrey Crespo-Mara reçoit Nadine Morano, députée européenne Les Républicains.
Europe 1.
Bâton en brèche, une idée reçue, nous ne serions, nous Français, pas attractifs avec nos 35 heures, notre fiscalité, eh bien pas du tout. Les investisseurs préfèrent Paris à Berlin. Le baromètre du cabinet E&Y, de mon temps on disait Ernst & Young, mais ils ont modernisé leur nom. Le baromètre de ce cabinet place la France deuxième État européen en termes d'attractivité derrière le Royaume-Uni, certes, mais devant l'Allemagne. Bonjour Anne-Laure Jumet.
Bonjour.
Alors comment est-ce que cela s'explique Anne-Laure ?
Eh bien en fait, c'est le résultat d'une politique menée depuis plusieurs années qui porte enfin ses fruits auprès des investisseurs étrangers. Les allègements de charges, la réforme du code du travail ou encore l'élargissement du crédit impôt recherche. D'ailleurs, sur la recherche-développement, la France devient la destination numéro 1 en Europe. Dans le même temps, nos partenaires européens ont souffert. L'Allemagne a un problème de plein emploi. Quand un investisseur étranger choisit ce pays, il n'est pas sûr de trouver sur place des salariés. Le Royaume-Uni, lui, est affaibli par le Brexit. Un bémol toutefois, pour cette année, les intentions d'investissement en France sont au plus bas depuis 2015. Et oui, l'engouement des dirigeants étrangers pour Emmanuel Macron est un petit peu retombé. Et ils attendent maintenant qu'il amplifie les réformes.
Anne-Laure Jumet du service économie et d'Europe 1, merci à vous Anne-Laure. On retiendra qu'on est plus compétitif parce qu'on a beaucoup de chômage, c'est paradoxal mais c'est comme ça.
Nous avions jusqu'à ce soir minuit pour déclarer nos revenus en ligne. Un délai vient d'être accordé jusqu'à jeudi minuit. Pourquoi ?
Oui. En cause, le blocage du site internet des finances publiques. Hier soir, 3 millions de connexions en 30 minutes, selon Gérald Darmanin. Le ministre du Budget explique que le site a pris cette affluence pour une attaque informatique. Il s'agissait en fait de tous ceux, et nous sommes nombreux, qui remplissons cette corvée au dernier moment. C'est le cas d'Olivier, joint pour Europe 1 par Chanel Petit.
J'ai essayé de me connecter au site des impôts parce que j'étais évidemment complètement à la bourre en retard. Ça marchait pas. Message d'erreur qui m'indiquait que le site n'était pas accessible. C'est déjà pas agréable de devoir remplir sa déclaration d'impôt, mais en plus quand on doit faire face à des problèmes informatiques, ça agace. Aussi amusé parce que je me suis dit qu'on était quand même un peuple assez étonnant de procrastinateurs. On devait être beaucoup à le faire ça à la dernière minute.
Témoignage recueilli par Chanel Petit pour Europe 1.
Les cheminots manifestent aujourd'hui, David.
Oui, journée de grève à la SNCF. Les syndicats protestent contre la réforme, pourtant promulguée il y a déjà un an. Mais ils affirment qu'elle est source de souffrance au travail. François Geffrier.
La SNCF, c'est France Télécom il y a 10 ans. La comparaison, avancée par plusieurs syndicats, donne le frisson. Une vingtaine de cheminots se seraient suicidés depuis le début de l'année, poussés à bout par les restructurations. Bruno Poncet est le secrétaire fédéral de Sudrail.
Moi, j'ai l'exemple d'un collègue qui était aiguilleur sur la région de Dijon. On ferme son poste, on l'envoie à environ 50 km de chez lui. Au bout de 6 mois, on resupprime son poste. Cette personne est partie dans une forêt suicidée. Donc ces gens se retrouvent sans boulot, ou alors on les fait faire des boulots qui n'ont rien à voir, ou on les met des fois dans des placards. C'est fait qu'à un moment donné, la personne se sent réellement en souffrance dans son travail.
Rythme insoutenable, carnage social selon les élus du personnel. La direction de l'entreprise a ses propres chiffres sur les suicides. 8 en tout depuis 2013 ont été reconnus comme liés au travail. Le patron de la SNCF, Guillaume Pépi, se dit conscient du climat social délicat.
C'est beaucoup, beaucoup de changements en même temps. Et donc il faut avoir une seule vision en tête, c'est faire attention aux hommes et aux femmes. Et moi, je me sens concerné le premier. Et donc, prendre soin de chaque personne, parce qu'il y a énormément de transformations qui sont en cours.
Preuve d'une situation tendue, la SNCF a fait appel au service de Bruno Mettling, ancien DRH qui avait eu à France Télécom le rôle du pacificateur après la vague de suicides.
François Geffrier pour Europe 1 avec Aurélien Florent.
La démission de Laurent Wauquiez, maintenant on va parler politique, a soulagé pas mal de personnalités à droite, mais n'a rien réglé.
Oui, je vous parlais de chandruine, l'image n'est pas exagérée. Bonjour Aurélien Bemont.
Bonjour.
L'avenir de la droite commence cet après-midi avec la fameuse réunion à l'invitation de Gérard Larcher.
Oui, avec les présidents des associations d'élus, des groupes parlementaires et des régions. Autour de la table, un certain Laurent Wauquiez, que vous connaissez peut-être pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais pas Xavier Bertrand. Il ne va pas se replonger dans la guéguerre d'un parti qui fait 8%, dit un de ses proches. Alors, ça ne l'empêchera pas de voir Gérard Larcher. Ce sera demain en tête à tête. Des centristes seront là aussi cet après-midi. L'un d'eux confie, ils se souviennent de nous uniquement quand ça va mal. Au cœur de la réunion, les municipales qui approchent à grands pas. Et si certains tiennent à une troisième voie entre En Marche et le RN, et bien d'autres comptent poser la question d'alliance locale avec En Marche.
Bon, la réunion de cet après-midi qui se déroule dans un hôtel à côté de la Tour Eiffel est importante, mais les choses ne seront pas réglées dès ce soir. L'avenir de la droite, en réalité, c'est un gros point d'interrogation.
Ah, effectivement, avec une question fondamentale, comment redonner envie ? Et plein d'autres qui, à ce stade, n'ont pas de réponse. Est-ce que la marque LR est morte ou pas ? En clair, faut-il un nouveau parti ? Quel projet ? Quelle ligne ? Et qui pour l'incarner ?
Aurélie Herbemont, du service politique d'Europe 1. Merci à vous, Aurélie.
La visite d'État de Donald Trump au Royaume-Uni.
Oui, le turbulent président des États-Unis qui a critiqué la gestion du Brexit de Theresa May, traité le maire de Londres de loser. Mais face à la reine d'Angleterre, il a fallu faire preuve de politesse. Dîner d'État hier soir à Buckingham Palace. Le récit de notre correspondante à Londres, Anaïs Cordoba.
Dans la somptueuse salle de bal, Elisabeth II, vêtue de blanc et de rubis birman, ouvre le banquet. Son discours est une ode au lien très spécial qui unit les deux pays. Sacrifice pour la liberté, valeurs communes, même si subtilement la reine glisse une allusion à l'importance des Nations Unies, souvent critiquée par Donald Trump.
Après les sacrifices partagés de la Seconde Guerre mondiale, la Grande-Bretagne et les États-Unis ont travaillé avec d'autres alliés à la construction d'une assemblée d'institutions internationales pour assurer que les horreurs des conflits ne se répètent pas.
Une fois n'est pas coutume, le président répond avec une infinie courtoisie, comme s'il était terrifié de commettre un impair. Il rend un hommage appuyé à la reine.
Au nom de tous les Américains, je porte un toast à l'amitié éternelle de nos peuples, à la vitalité de nos nations et au précieux et remarquable règne de Sa Majesté la Reine.
Un décor d'apparat et des toasts feutrés qui ont presque fait oublier le boycott des deux chefs de l'opposition et du président de la Chambre des communes. Londres, Anaïs Cordoba, Europe 1.
Et la visite continue aujourd'hui, rencontre avec Theresa May, qui, je vous le rappelle, doit démissionner vendredi prochain. Donald Trump n'a d'ailleurs pas hésité à exprimer sa préférence pour la suite. Il juge que l'eurosceptique Boris Johnson, ancien ministre des Affaires étrangères, ferait un excellent chef du gouvernement.
Europe 1.
À suivre dans le journal, les commémorations du 75e anniversaire du débarquement, c'est jeudi. Zoom sur le rôle de la résistance dans un instant. A tout de suite.
Il est 8h09, votre matinale info, Nikos Aliagas.
La suite du journal avec David Doucan, les commémorations du 75e anniversaire du débarquement, c'est jeudi.
Oui, et on ne le dit pas suffisamment, les résistants français ont joué un rôle le 6 juin, comme Maurice Romani. Il avait 20 ans, il est toujours parmi nous et l'Ordre d'Autriche l'a rencontré pour Europe 1.
Dans les premiers jours de juin 1944, Maurice Romani, 20 ans tout juste, reçoit comme ses camarades résistants un message. Ne vous éparpillez pas, le débarquement est proche. Ces derniers temps, sur ordre de Londres, ils ont fourni des renseignements sur l'état des blockhaus allemands construits sur les plages. Ils vont devoir désormais perturber la contre-offensive allemande en sabotant les voies ferrées ennemies. Et le matin du 6 juin, Maurice Romani voit les avions alliés, les planeurs, arriver dans le ciel normand.
Des avions, des planeurs qui se trompaient, on a récupéré des planeurs complètement perdus, on a récupéré des pilotes qu'on a planqués, on avait ordre de foutre des bétonnières en l'air, tout ça, mais de ne pas s'attaquer aux soldats allemands. Pourquoi pas les représailles ?
Un soldat allemand tué, c'était 5 résistants fusillés.
Eh oui. On a fait ce qu'on a pu.
Mais la résistance paiera un lourd tribut. Ce 6 juin 1944, 87 résistants qui venaient d'être capturés ont été fusillés à la prison de Caen et leurs corps n'ont jamais été retrouvés.
L'or d'Autriche pour Europe 1.
Bon, il n'y a plus de Français à Roland-Garros.
Oui, il n'y a plus de Grecs non plus.
Non, il y en avait un, mais il n'est pas resté longtemps.
Vous n'avez donc plus aucune raison de vous réjouir. Après l'élimination hier de Benoît Paire, mais aussi de Gaël Monfils, il ne nous reste plus, mon cher Nikos, qu'à faire le bilan.
Eh oui.
Faisons-le avec Christophe Lamar.
Allez, c'est parti.
L'aventure s'arrête plutôt que prévu, mais Gaël Monfils n'a aucun regret. Dominic Thiem était le plus fort. Le Français aura au moins vu la fameuse deuxième semaine. À ceux qui moquent cette incapacité à briller sur la terre battue de Roland-Garros, Gaël Monfils a cette réplique cinglante.
C'est agaçant, au bout d'un moment, les mecs sont plus forts, il faut arrêter de nous dire « Ouais, attends, Nadal, il est plus fort que nous sur terre battue, il n'y a pas un mec qui va dire le contraire. » Il y a un moment, on nous dit « Les Français, ok, pas de problème, mais... » Je vois pas non plus un autre pays gagner, quoi.
Exit Monfils et au revoir Benoît Paire. Lui n'a pas eu un adversaire supérieur, même si le japonais Kei Nishikori appartient au top 10 mondial. Le français a été rattrapé par la peur de gagner au moment où la victoire lui tendait les bras. Des regrets et un rêve, celui de gagner Roland-Garros. Il faudra maintenant attendre l'année prochaine.
Christophe Lamar du service des sports d'Europe. Alors aujourd'hui, on regardera le choc des Suisses.
Évidemment.
Stan Wawrinka, Roger Federer. Vous êtes pour qui, vous, Nikos ?
Ah, je l'aime bien, Wawrinka, même si Federer, c'est le top. Mais bon, Wawrinka, quoi.
C'est la fin de ce journal.
Il a plus d'aspérité. Voilà.
Oui, c'est vrai.
À 8h35, Corinne Boulou nous fera le point, justement, de cette journée Roland-Garros, dont nous sommes d'ailleurs partenaires, nous, Europe 1. Merci, David, de commencer le journal de 8h à demain.
La matinale d'Europe 1. Nikos Aliagas.
Il est 8h12, coup d'œil à présent à l'actualité internationale avec Jean-Sébastien Soldaini, Nikos.
Bonjour Jean-Sébastien.
Bonjour.
Ce matin, le regard et les inquiétudes de la communauté internationale se tournent vers le Soudan.
Oui, la fête est finie au Soudan, je vous dis la fête est finie, car il y a eu 30 morts hier. Et vous gardiez sans doute en tête la première image de cette contestation. Cette jeune femme vêtue de blanc qui danse au milieu d'une foule de manifestants. La révolte s'incarne, elle porte un nom à la Salah, elle attire les caméras du monde entier et montre qu'un chef d'État peut être renversé sans violence, car dans les jours qui suivent, Omar el-Béchir lâche un pouvoir auquel il s'accroche depuis 30 ans. Il est remplacé par un conseil militaire, ce dont la rue ne veut pas. Le 6 juin, après-demain, ça aurait fait 2 mois de contestation, l'occupation d'une place. Le 6 juin, ça coïncide aussi avec la fin du Ramadan et visiblement, le général Al-Bourhan, qui a pris le pouvoir pour soi-disant organiser la transition, n'a pas laissé à la foule la double occasion de fêter ça. Il a perdu patience, l'armée et les milices sont débarqués pour disperser les occupants à balles réelles. 30 morts donc.
On a tous les ingrédients pour que ça se termine mal en fait.
Oui, ça faisait plusieurs jours que le conseil militaire qualifiait le sit-in des manifestants de menace pour la sécurité. Il a aussi promis d'agir avec détermination, a priori c'est fait. Le général Al-Bourhan a aussi mis dehors les journalistes d'Al Jazeera. La chaîne qatarienne diffuserait trop d'images des manifestations, tour de vis pas très rassurant. Il organise aussi la contre-révolution. Des milliers d'habitants de la région sont régulièrement conduits en bus vers la capitale pour afficher le soutien au pouvoir, là où les opposants appellent désormais à la désobéissance civile totale. Tout ça ne va pas dans le sens de l'apaisement, d'autant que ce matin, l'armée annule tous les accords passés avec l'opposition.
Et puis Jean-Sébastien, depuis 2 mois, le parallèle est souvent fait entre la contestation soudanaise et celle qui se tient en ce moment en Algérie. Ce n'est plus le cas là.
Le calme de ces deux mouvements était souvent cité en exemple. La réaction des autorités soudanaises hier interdit désormais tout parallèle. Le conseil a beau appeler à des élections sous 9 mois, cela ne va pas calmer les ardeurs. Et puis il faut voir comment le général Al-Bourhan profite de la situation pour asseoir son réseau. Il s'est récemment rendu aux Émirats, en Arabie Saoudite et en Égypte pour recueillir le soutien de dirigeants étrangers, lui qui voulait au départ installer un pouvoir de transition pour 2 ans. Il semble bien vouloir rester plus longtemps. Le soutien du président égyptien Al-Sisi pourrait bien en dire long. Al-Sisi, un militaire élu chef d'État après une transition et qui vient d'aménager la constitution pour rester en place jusqu'en 2034, ça peut donner des idées.
C'était Jean-Sébastien Soldaini pour l'édito international sur Europe 1.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
Bonjour Audrey Castomar.
Bonjour Nikos, bonjour à tous.
Qui est votre invité dans 2 minutes pour l'interview politique?
Eh bien écoutez, on ne compte plus les figures de la droite qui poussaient Laurent Wauquiez vers la sortie et qui depuis hier salue son courage, sa dignité, sa sagesse. Elle ne s'est pas encore exprimée, elle le fera dans quelques minutes. Nadine Morano, députée européenne LR, sera mon invitée.
Elle s'installe dans le studio, à tout de suite.
Bon réveil à tous sur Europe 1, il est 8h14. Il est 8h17, Nikos Aliagas.
C'est la députée européenne des Républicains, Nadine Morano, qui est votre invitée ce matin, Audrey Crespo-Mara.
Bonjour Nadine Morano.
Bonjour.
Depuis l'annonce de sa démission, Laurent Wauquiez croule sous les louanges. On le trouve sage, digne, courageux. Vous êtes l'une des rares à ne pas lui avoir adressé un petit compliment. C'est peut-être parce que vous ne vous réjouissez pas de son départ?
Tout simplement parce qu'on s'est parlé avant qu'il n'annonce sa décision, on s'est vu régulièrement. Il voyait très bien qu'il n'avait pas de marge de manœuvre, il a fait ce choix, je le respecte. Et en même temps, qu'est-ce qui va se passer dans les semaines qui viennent, puisque nos statuts prévoient une élection.
En août, normalement.
En plein été, ça va être compliqué. Et ceux qui se réjouissent de son départ auraient mieux fait aussi de pousser au départ de François Fillon. On ne serait peut-être pas dans cette situation aujourd'hui.
Depuis 2017, Valérie Pécresse affirmait qu'avec la ligne politique imposée par Laurent Wauquiez, LR risquait de rétrécir et de finir dans une boîte à chaussures. Vous reconnaissez qu'elle avait vu juste ?
Vous savez, Laurent Wauquiez, il a redressé les finances de notre parti politique, il a remis en ordre les fédérations départementales. Nous avons beaucoup travaillé pendant 1 an et demi, on a sorti différents documents pour que la France reste la France. Nous avons dénoncé la politique du gouvernement sur les 80 km/h, sur la hausse des taxes sur les carburants, sur l'augmentation de la CSG. Nous avons fait une proposition d'une baisse de la dépense publique, un plan de baisse de la dépense publique.
Mais sur cette ligne que Valérie Pécresse dénonce depuis 2017.
Et la réalité, que ce qui nous tue, en fait, dans notre famille politique, c'est les divisions. C'est pas le manque de travail ou la personnalité de Laurent Wauquiez, c'est pas vrai. Il a fait le boulot, c'était compliqué, il a été élu au suffrage universel, il a fait des erreurs, sans doute. Mais en même temps, chacun veut constituer sa petite PME, telle Valérie Pécresse, avec qui on peut pas parler. Elle vient au bureau politique et dès qu'on n'est pas d'accord avec elle, elle se lève, elle s'en va, ne répond même pas aux SMS. Moi, j'étais contre la stratégie d'avoir des partis politiques, des maisons annexes. Elle a constitué Libre, qui est une coquille vide. Mais on a toujours des espaces de division.
Et Bruno Retailleau aussi a constitué son
mouvement. Oui, mais j'estime que si on veut réussir, on doit travailler tous ensemble dans ce même parti politique. Et la réalité, c'est que ce qui nous tue, ce sont les divisions. Comment voulez-vous être audible quand vous avez matin, midi et soir sur les plateaux depuis un an et demi des gens qui nous disent « Ah, mais c'est trop à droite. Oh, mais ça, ça va pas. Mais ça, c'est pas vrai. » En fait, ils ont un espèce d'état d'esprit du temple solaire que je n'ai pas.
C'est-à-dire,
et je commence à en avoir
solaire,
ras-le-bol.
C'est-à-dire le temple solaire sur...
Mais c'est-à-dire qu'ils sont dans l'autodestruction permanente. Et moi, je me suis engagée à faire de la politique. Je suis gaulliste, je suis venue au RPR pour servir la France, pour servir mon pays, et pas pour jouer à une bagarre de chiffonnier. Et quand j'entends, mais que ce soit les jeunes contre les moins jeunes, les gaullistes contre les autres, mais moi j'appartiens à cette génération aussi de sarkozyste qui a démontré qu'on savait gérer la France et qu'elle avait réussi.
Alors, Nadine Morano, Gérard Larcher cherche à réunir les Républicains et les centristes. Ce serait un retour un peu à l'UMP, hein, qui avait réuni le RPR, justement, et les centristes de
qui
l'UDF.
Qui avait fondu le RPR, surtout, avec les centristes, oui.
Vous ne devez plus vous allier aux centristes ?
Je crois que... Moi, je veux parler à tous les Français. Je crois que c'est ça qui nous manque. Parce que moi, je ne veux pas critiquer ni la stratégie d'Emmanuel Macron, qui a réussi, ni celle de Marine Le Pen. Il faut s'interroger nous-mêmes.
L'union avec les centristes.
Moi, je crois que, avant de parler d'union, c'est qu'est-ce qu'on a à se dire entre nous ? Gérard Larcher va réunir les élus locaux, c'est très bien. Moi, je suis parlementaire européenne. Aujourd'hui, il n'y a pas de majorité dans ce Parlement. Ça va être très, très difficile. L'image de la France est extrêmement dégradée. Il y a beaucoup de travail à faire. Et je crois que chacun a sa place dans cette famille politique pour porter cette pierre à l'édifice de la vraie reconstruction. Mais dès qu'on reconstruit un mur, il faut toujours qu'il y en ait qui mettent des boulets dedans. À un moment, ça ne peut pas fonctionner. Et moi, je respecte les militants, les sympathisants. Je respecte notre électorat qui, aujourd'hui... bien, ne nous trouvent pas attirants parce qu'ils nous regardent, ils passent leur temps à se diviser.
Et ça ira pas mieux avec les centristes.
Mais qu'est-ce que ça veut dire d'aller faire un accord avec les centristes ou de nous dire la droite dure, la droite molle ? Non, moi je veux parler d'immigration et je veux qu'on ait une politique ferme sur les questions migratoires. Je veux qu'on ait une politique humaniste à la fois. Je veux qu'on ait une politique sociale, économique, réaliste. Le monde va très vite aujourd'hui. Il faut s'adapter très très vite et il faut protéger nos concitoyens. Il faut leur apporter des solutions dans leur vie quotidienne pour la formation, pour l'éducation nationale. La politique, ça commence du début de la vie jusqu'à la fin. Et là, je trouve qu'on n'est pas audible parce que d'abord, on n'arrive pas à se parler entre nous, donc on ne peut pas être audible.
Alors justement, le point commun entre la République En Marche et le Rassemblement National, c'est qu'ils ont tous les deux un chef incontestable. Emmanuel Macron d'un côté, Marine Le Pen de l'autre. Vous, depuis Nicolas Sarkozy, il n'y a pas de chef incontestable. Aujourd'hui, Éric Woerth, il propose une direction collégiale dans un premier temps. Est-ce que vous êtes candidate pour y siéger ?
On verra qu'est-ce que ça veut dire. Qui, si c'est pour
François
repartir.
Barouin, Valérie non, mais Pécresse,
François Barouin, que j'aime beaucoup et pour lequel j'ai beaucoup d'affection, nous a toujours dit qu'il ne voulait plus être dans la politique active partisane. Moi, je ne veux pas revivre le triumvirat, là. C'est bon, on a déjà donné. Je pense qu'il faut de toute manière que nous repassions par des élections. Si on a un parti multitête, ça veut dire qu'il n'y a aucune tête. La politique, elle doit être incarnée. Et donc, pour
par
être,
qui aujourd'hui elle, les Républicains, bien, vous mettez qui à la tête des Républicains aujourd'hui ? Qui peut légitimement
succéder à qui voudra être candidat ? Et on verra si les uns et les autres arrivent à mettre leur écho personnel dans leur poche pour travailler un vrai destin collectif pour la France.
Vous y croyez vraiment ?
Pour l'instant, je suis sceptique, je vais vous dire. Parce que tous ceux qui appelaient à la démission de Laurent Wauquiez, d'accord, mais pour faire quoi ? Si c'est pour être toujours dans la division, ça ne m'intéresse pas. Je veux dire, et on n'intéresse pas les Français. Il faut bien qu'ils se rendent compte de ça. Laurent, il avait fait le job, il a fait le boulot, ça n'a pas été facile. D'ailleurs, pendant les élections européennes, ça stratégie a été de choisir un trio de têtes qui malheureusement n'était pas connu, mais un trio de têtes qui au départ rassemblait nos sensibilités politiques. C'est-à-dire que pendant 2 mois, ça c'est vrai, ça a été le calme plat, tout le monde était dans les meetings tous ensemble. Paf, ça marche pas, ça donne 8,5. Ah bah là, il faut la tête du chef. Mais personne pour reprendre la boutique, tellement la boutique
donc,
va mal.
Donc les Républicains sont condamnés à disparaître.
Non, les Républicains
ils s'autodétruisent, c'est ce que vous dites, le temple solaire.
Oui, mais ils peuvent avoir un espace si chacun comprend que l'élection présidentielle n'est pas tout de suite et que pour avoir vraiment un candidat à l'élection présidentielle, d'ailleurs, il va falloir vraiment définir les modalités. Comme ça, on va régler ce problème. Et je pense
primaire
que nos militants,
ou pas primaire, c'est ce que vous
non
dites.
Mais ouais. Nos militants doivent choisir en interne qui portera nos couleurs. Et moi, je suis contre les primaires externes qui nous ont détruits aussi. Il faut se réinventer. Si on se réinvente pas, on ne gagnera pas.
Nadine Morano, sans rallier le Rassemblement National comme l'a fait Thierry Mariani, pourquoi ne pas rejoindre un mouvement plus large d'union des droites comme le propose Marion Maréchal ?
Mais qu'est-ce que ça veut dire de s'unir avec quelqu'un avec lequel on ne partage pas une vision économique de la France, avec lequel
c'est
on ne partage pas
du
une vision
national
européenne de la France? Moi, je ne partage pas la vision européenne du Rassemblement National. Je ne veux pas un repli sur nous-mêmes. Moi, je vis dans une région à trois frontières. Je vis en Lorraine. Je suis attachée à l'Union européenne. Je suis attachée à refonder l'Union européenne. Et je n'ai rien en commun avec leur projet de repli sur soi avec le Front National, ni même leur programme économique. Je pense que le Rassemblement National reste un parti de colère. Moi, j'appartiens à un parti politique qui construit parce que nous sommes un parti de gouvernement. Donc, nous devons le redevenir. Et c'est ça tout l'enjeu. Mais moi, j'ai pas envie de regarder ce qui se passe au Rassemblement National. J'ai envie de parler à tous les Français. Et
non, le Rassemblement National... On a l'impression ce matin que vous en avez un peu marre.
Oui, un peu, parce que le Rassemblement National en 2009, vous savez, ils étaient à 7%. Et nous, on était à 30% quasi aux européennes. Donc, vous voyez, à un moment, ils ont failli disparaître. Donc, moi, je ne suis pas dans ce de panique qui a animé mes petits camarades. Je suis dans un état d'esprit de sang-froid à se dire que c'est tous ensemble qu'on s'en sortira ou alors on s'en sortira pas. Et puis les Républicains disparaîtront. Mais il n'y a pas les jeunes contre les vieux. Là aussi, on nous traitait de vieux schnock. Mais attendez, et comme si la Sarkozy devait s'effacer. Ah, vous avez été Sarkozy, dehors. Ben non, faites-vous votre place, mais arrêtez de dire circuler, il faut qu'on prenne la vôtre. C'est tous ensemble ou personne.
C'est pas gagné.
Ben, on verra. Mais moi, j'espère qu'on gagnera quand même.
Merci Nadine Morano.
Merci à vous.
La députée européenne des Républicains, Nadine Morano, était votre invitée, Audrey Caspomara, pour l'interview politique.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
Dans un instant, la météo avec Laurent Cabrol, l'essentiel de l'info. 8h30, la revue de presse avec David Abiker. Et 8h35, le journal de Roland Garros avec Corinne Boulou. Il n'y a plus de Français en lice.
Mais
à
non.
Tout de suite.
Avec Nikos Aliagas sur Europe 1, il est 8h26. À suivre l'essentiel de l'actualité, mais tout de suite, c'est la météo, Nikos, avec Laurent Cabrol.
Lolo Cabrol, bonjour.
Rebonjour. Eh bien, nous allons vivre une journée un peu agitée, pardonnez-moi, puisque nous sommes dans un système orageux qui, quand même, semble se mettre en place. On voit des cellules orageuses, même si l'eau ne tombe pas, ou la pluie ne tombe pas, vers Évreux, vers Laval, vers Châteaudun. Tout ceci, donc, va se concrétiser dans le courant de l'après-midi, avec une zone particulièrement agitée, le Nord, la Picardie, la Haute-Normandie, la région parisienne, la Champagne, les Ardennes, le centre et la Touraine. Région parisienne, alors on pense à Roland-Garros, bien sûr. Mm-hmm. Là, je suis un petit peu sceptique, parce qu'en principe, cela passait quand même à l'est de Paris, les orages, mais ça m'étonnerait bien qu'il n'y ait pas quand même de bonnes averses. En ce qui concerne l'Aquitaine, le Béarn, ce sera vite orageux, et ces pluies vont remonter vers le Midi-Pyrénées. Il fera 27 à Bordeaux, 31 à Toulouse. Puis des régions où il ne pleuvra pas, Lorraine, Alsace, Bourgogne, Rhône-Alpes, Franche-Comté, Massif central, littoral méditerranéen. Nous sommes avec des valeurs de 31 à 34 degrés. Enfin, sur la Bretagne, le Cotentin, les Pays de la Loire et le Poitou-Charentes, nuages bas et pluie espacée. Voilà pour le programme de cette journée. Tant pis, allez.
Ça donne envie.
C'est remis plus tard.
Bonne journée quand même.
Merci beaucoup Laurent Cabrol, à tout à l'heure.
7h, 9h, 2h d'info sur Europe 1.
Nous sommes le mardi 4 juin, toute l'actualité à 8h30 avec vous Nikos Aliagas.
48 heures supplémentaires pour les contribuables qui devaient déclarer leurs revenus avant ce soir minuit. Eh bien, ils ont finalement jusqu'à jeudi minuit car le site des impôts est tombé en panne hier soir à cause d'un très grand nombre de connexions et ce matin il fonctionne à nouveau normalement. Donc, si vous voulez le faire, c'est maintenant. Les cheminots mobilisés contre la réforme ferroviaire, une manifestation est prévue à 13h à Paris. Les syndicats demandent à être reçus à Matignon. Pas de répercussions sur le trafic, sauf sur les TER des Hauts-de-France et du centre Val-de-Loire. Opération reconstruction chez les Républicains. Gérard Larcher, président du Sénat, réunit cet après-midi des dirigeants de la droite et du centre, et ce pour évoquer l'avenir du parti. Emmanuel et Brigitte Macron à Clairefontaine, ils viennent déjeuner avec les joueuses de l'équipe de France féminine à 3 jours du match d'ouverture du Mondial de foot. Et dans l'après-midi, ce sont les joueurs français champions du monde qui seront à l'Élysée, reçus pour recevoir la Légion d'honneur.
Europe 1.
Et il est 8h31, c'est l'heure de la revue de presse avec David Abiker, Nikos.
Bonjour mon cher David Abiker.
Bonjour Nikos, bonjour Céline, bonjour à tous.
Dans les journaux, on commémore et on se souvient.
À la lecture, oui, des journaux, on se souvient en effet d'une scène des tontons flingueurs et ces mots de Bernard Blier, j'ouvre les guillemets. « Je vais lui montrer qui c'est Raoul aux quatre coins de Paris, on va le retrouver éparpillé par petits bouts façon puzzle. » Eh bien, on retrouve les mêmes mots pour qualifier les tontons flingués de la droite républicaine ce matin. À la une de la Provence, la droite éparpillée, façon puzzle, suggère l'illustration. Ou en une du Midi Libre, la droite en morceaux. Plus douloureux sont les souvenirs qui, 30 ans après, ressuscitent ce 4 juin 1989, jour où l'armée chinoise réprimait dans le sang les manifestations étudiantes de la place Tiananmen et dont se souviennent La Croix, Libération et Le Figaro. Le Figaro qui publie la photo de cet étudiant à genoux devant un char. Une image devenue un symbole dans le monde entier, sauf en Chine. Plus lointain est le souvenir du débarquement D-Day sur ces côtes normandes qui se préparent à en célébrer le 75e anniversaire, explique la presse de la Manche, tandis que Ouest-France annonce en Russie, le 9 juin prochain, le défilé du Régiment des Immortels, manifestation civile et patriotique née en 2015, qui voit aujourd'hui des millions de Russes commémorer les morts de la Deuxième Guerre mondiale en marge des défilés militaires de la Place Rouge. Vous l'aurez compris ce matin, la presse a de la mémoire.
Et les éditorialistes réveillent le passé glorieux d'une droite qui se disloque.
Dans Libération, Laurent Geoffrin se souvient des temps où la droite réunissait dur et mou, conservateurs cocardiers et libéraux centristes. Chirac puis Sarkozy avaient réussi à transcender ce dilemme grâce à la mystique du chef. Idem dans Le Monde qui ravive le souvenir de Chirac et Séguin qui aux élections régionales de 1988 avaient uni leurs forces pour éviter l'alliance contre nature à l'époque avec le Front National. À cette droite, les éditorialistes prodiguent leurs conseils et dans l'Est républicain, Pascal Salciarini ose un mot oublié. Gaullisme. Un médecin raisonnable comme le député Jean Leonetti ne sera pas trop pour sauver ce qu'il en reste. Ironie du sort, Leonetti est spécialiste de la fin de vie.
Dans les journaux ce matin, David Abiker, les souvenirs qu'on ranime et ceux qu'on enfouit.
Alors qu'à 2 jours des commémorations du débarquement, la Normandie se veut le Davos de la paix, avec la publication demain par le Parlement européen de l'indice Normandie qui mesure le niveau de conflictualité du monde, explique Ouest-France, il est des souvenirs qu'on enterre. Tiananmen, la tragédie de l'oubli, titre Libération, qui rappelle que le 4 juin 1989 reste un tabou dans l'histoire contemporaine chinoise. Pas de bilan, pas de mémoire et bien sûr pas de célébration. Le 4 juin, j'ai vu les chars en rang serré écraser les tentes, se souvient Yu Shuo, anthropologue chinoise réfugiée en France. Effacer le 4 juin 1989, c'est l'obsession du régime depuis 30 ans, écrit La Croix. Rien dans les livres d'histoire et rien sur Internet. Lorsqu'on tape Tiananmen dans Baidu, le Google chinois, on tombe sur des prises de vue touristiques de la place où fut étouffée la révolte. Il faut avoir été étudiant à l'étranger pour avoir connaissance des événements. Sur la place Tiananmen, il n'y a plus de chars, conclut La Croix, mais des caméras de reconnaissance faciale, véritable arsenal déployé dans tout le pays, traduisant la fixation des autorités pour l'intelligence artificielle. Il est vrai que la science permet aujourd'hui de stocker les souvenirs ou de les effacer. On s'en souviendra en lisant le dernier numéro de Cerveau et Psycho et ses 4 pages sur la méthode d'Alain Brunet. Ce psychologue canadien y explique comment la psychothérapie associée à certaines molécules psychotropes comme le propanobol permet de réguler la fabrication des mauvais souvenirs, atténue les traumatismes, voire les chagrins d'amour. Alors, à ce possible effacement de la mémoire qui rappelle les pires films de science-fiction, on préférera la méthode d'Antoine Burbeau, Jean-Éric Zabrotsky et Benjamin Henry. Dans les colonnes de la Nouvelle République, ces journalistes, éducateurs ou sportifs disent pourquoi et comment ils ont entrepris de publier une histoire du football en Touraine depuis 60 ans. On a tous une histoire, des souvenirs. Je déteste voir des photos jamais parues, prendre la poussière dans les greniers, explique le premier. Les partager, c'est rassembler les mémoires. Les commémorations du débarquement, comme les souvenirs fragiles des martyrs de la place Tiananmen, ne disent pas autre chose.
Merci David Abiker, c'était la revue de presse du jour.
Et il est 8h36, c'est l'heure Nikos du journal de Roland-Garros. Europe 1 est la radio officielle du tournoi. Et le journal de Roland-Garros, c'est avec Corinne Boulou.
Il y a une Française.
Europe 1, le journal de Roland-Garros.
Il reste une Française sur les cours, c'est Corinne Boulou.
C'est vrai.
Elle n'a pas de raquette, mais elle a le micro bleu. Elle a le micro bleu d'Europe 1, évidemment. Pas de Français en quart de finale. Et c'est pour la 3e année consécutive, Corinne.
Oui, effectivement, Benoît Paire a frôlé l'exploit hier face à Kei Nishikori, 7e mondial. Le Japonais s'est imposé en 5-7, alors que dans cette dernière manche, eh bien, le Français a eu l'occasion de servir pour se hisser pour la première fois de sa carrière en quart de finale. Mais il a expliqué y avoir tellement pensé que cela lui a fait perdre ses moyens et le match. Pour Gaël Monfils, ce fut une défaite expéditive en 3-7 face à un Dominique Thiem indomptable. L'Autrichien numéro 4 mondial finaliste de l'an passé a reconnu qu'il s'agissait de son meilleur match depuis le début du tournoi.
Un chiffre ce matin, le chiffre 3.
Comme le nombre de victoires de Stan Wawrinka face à Roger Federer, toutes sur la terre battue d'ailleurs, ce sera leur 26e confrontation. L'occasion de demander à Wawrinka ce que représente pour lui Federer.
Un cauchemar à le jouer, mais mis à part ça, le plus grand joueur de tous les temps. Je veux dire, je suis toujours aussi fan quand je le vois jouer, quand je le vois gagner des tournois. Je suis toujours aussi impressionné quand je le vois en live, en fait, jouer ou bouger. Il a une telle façon que, voilà, c'est pour ça qu'il est aimé et admiré dans le monde entier, tout simplement. Et c'est un plaisir et je pense que c'est une chance énorme pour le tennis qui joue encore.
Et le vainqueur de ce combat helvétique aura probablement une explication avec le tenant du titre en demi-finale, Nikos.
La perf du jour attribuée à une jeune américaine de 17 ans.
Amanda Anisimova, 51e mondiale, née en août 2001, devient la plus jeune joueuse à se qualifier pour les quarts de finale de Roland-Garros. Depuis la tchèque Vejdízová en 2006, elle est américaine.
Au programme du jour, le début des quarts de finale, Corinne.
Et donc l'affiche du jour opposera les Suisses Roger Federer, vainqueur il y a 10 ans à Stan Wawrinka, victorieux lui en 2015. Entre ces deux-là, est-ce qu'il y a un favori d'ailleurs ? Réponse de notre consultant Cédric Pioline.
Le favori pour moi est Roger Federer. Il arrive en quart de finale sans avoir dépensé beaucoup d'énergie. Il a gagné tous ses matchs en 3-7. Alors que du côté de Stan, il a eu un parcours plus compliqué, notamment son match précédent de 5 heures, 5-7. Donc ça peut laisser des traces. Et Federer, lui, a l'air bien. Il vole sur le court. Encore une fois, le début du match va être important. Si Federer arrive tout de suite à mettre la main sur le match et le score, ça va être compliqué pour son adversaire.
Et curieusement, cette affiche est programmée sur le deuxième cours de Roland-Garros, Suzanne Lenglen. Le tenant du titre, lui, aura les honneurs du cours châtrier. Raphaël Nadal sera opposé au japonais Nishikori. Dans le tableau féminin, il y aura une belle opposition entre la finaliste 2018, l'américaine Sloane Stephens, à la britannique Johanna Konta.
Premier quart de finale à partir de 14h à suivre toutes les demi-heures sur Europe 1, radio officielle du tournoi. Et puis à 19h40, ne manquez pas Service Pioline pour faire le bilan de la journée avec notre consultant. Merci Corinne, à demain.
Europe 1, radio officielle de Roland-Garros.
Ne bougez pas, il arrive, il a un revers terrible, il fait des passings insupportables, il est insortable, mais qu'est-ce qu'on l'aime. Nicolas Canteloup et sa revue de presse qui arrive, et Julie est déjà dans la place, à tout de suite.
Excellente matinée, il est 8h39. Il est 8h42.
Vous êtes prêts, on y va ?
Oui !
Alors c'est parti, voici Nicolas Canteloup et la revue de presse.
C'est presque de l'info, c'est la revue presque de Nicolas Canteloup. Et elles sont encore dans le studio, Audrey Crespo-Mara et Nadine Morano.
Ah. Nadine Morano, Valérie Pécresse a déclaré « La droite, à force de vouloir séduire, va finir dans une boîte à chaussures. Quel est votre regard ?» Non mais écoutez, c'est pas mon problème. Moi, excusez-moi, mais mon problème, c'est de rassembler. Faut arrêter avec les divisions. La Pécresse, ok, excusez-moi, mais Valérie Pécresse, je lui envoie des messages, elle répond même pas. Il faut rassembler. Retailleau, mais s'il vous plaît, Retailleau, c'est bon, Larcher, il veut parler aux élus locaux. Moi, excusez-moi, mais je suis européenne. Marion Maréchal, c'est gentil, mais j'ai pas la même politique au niveau de l'Europe. Les centristes, y a pas de problème centriste, la droite molle, la droite dure, c'est ça qu'on veut. C'est rassembler. Faut arrêter de parler à tous les cons. Sinon on va se diviser. Moi je dis qu'il faut rassembler, sinon on va mourir de pas vouloir rassembler. Voilà mon avis, voilà, je le partage. Voilà. Merci Nadine Morano.
C'est brillant.
Rassembler. Arrêtez de parler à tous les cons, sinon on va se diviser.
Oui bon, mais c'est bon.
Mais oui.
Allez, on poursuit avec le titre principal de l'actu. Et c'est vous Nikos qu'on retrouve.
Ah, ouais. Salut l'info surround of the morning of today. Vous l'avez remarqué, je parle américain. C'est Gérard Larcher qui reçoit aujourd'hui dans un hôtel parisien plusieurs hiérarques de la droite pour évoquer la reconstruction. Oui, les temps sont durs pour les Républicains. Après avoir perdu les Européennes, ils sont obligés d'aller à l'hôtel avec Gérard Larcher, allongé en pose lascive sur une peau de bête en train de manger du raisin. On comprend Laurent Wauquiez, l'image peut donner envie d'arrêter la politique.
ben dis donc, ben je t'emmerde. Je suis un faux gros. Nadine Morano, je t'attends quand tu veux.
Oula.
Ok, ok, à bout, à boucher.
Oui, on va enchaîner là. Après la déroute des Républicains aux Européennes, La République En Marche veut séduire les maires de droite en vue des élections municipales de 2020. Le gouvernement se lance dans une opération séduction pour convaincre les élus de droite. Bonjour Bruno Le Maire.
Bonjour Madame Julie, bonjour Monsieur Aliaga, bonjour à Madame Boulou qui est toujours sous le coup, et bonjour à tous vos subalternes sympathiques. Écoutez, oui, il n'y a pas de débat. Nous voulons convaincre les maires de droite de nous rejoindre, car je le crois fermement, nous avons de belles choses à accomplir ensemble.
Alors, comment allez-vous les persuader, hein ? Hier, Sébastien Lecornu les a appelés officiellement à quitter leur parti. Est-ce que ça peut suffire ?
Non. Ouais. Je pense que personne ne fait quelque chose, Madame Leclerc, dans la vie parce que Sébastien Lecornu le lui a demandé. Ben oui, ouvrez les yeux. C'est très rare que quelqu'un dise « Chérie, j'ai changé de coiffure. C'est une idée de Sébastien Lecornu. » Alors c'est un début, mais il faut séduire. Séduire. Voilà, j'ai décidé donc de m'impliquer personnellement en envoyant par mail une campagne adaptée.
Et c'est quoi cette campagne adaptée ?
Je vous fais écouter tout de go.
Oh là là.
Tu veux rencontrer les vainqueurs de l'élection les plus chauds de ta région ?
Oh non, oh là là.
Tu veux découvrir l'ivresse et la sensualité de la victoire ? Envoie « Oh oui !» au 7-12-12.
Vous le faites bien.
Et
hein.
Dit « Oui !» à Emmanuel Macron et aux membres les plus sexy de son parti. Rejoins-nous pour des moments de chaleur et d'extase. D'autres l'ont fait. Écoute le témoignage des hommes qui ont dit « Oh oui !»
Alors.
Bonjour, je m'appelle moi Jean-Pierre Raffarin, R-A-F-F-A-R-I-N. Depuis que j'ai dit « Oh oui !» à Emmanuel Macron, je me sens sexy et séduisant.
Comme Jean-Pierre, assume de faire ton coming out politique. Tu es glamour, tu es beau, tu es attirant. Alors viens découvrir l'amour auprès de politiciens très chauds qui te ressemblent. Et à bientôt.
À bientôt, Bruno Le Maire. Ça promet. Elle était l'invitée d'Audrey Crespo-Mara, mais elle est toujours là. C'est Nadine
mais
Morano.
Ouais,
bah oui, vous
parce que j'occupe
là.
Le terrain. Bah je oui. Suis une femme de terrain. Bon. Moi, en Lorraine, il y a trois frontières autour. Et ouais, j'ai découvert il y a 15 jours. Vas-y, pose ta question.
Alors, tous les ténors de la droite commentent le départ de Laurent Wauquiez. Votre sentiment, sans langue de bois, bien
mais
sûr.
Le problème de Wauquiez, le problème, c'est qu'il n'a pas réussi à réunir la droite parce qu'il est trop de gauche, Wauquiez.
À trop de gauche, Wauquiez.
Mais oui, mais la preuve. Regarde, il a mis un homo, enfin un philosophe, tête de liste aux européennes. Mais non, quoi, il n'y a pas de haut. Toi, tu viens de Grèce, alors tu la fermes.
Oh,
mais non,
mais
ça prouve bien qu'il est de gauche. Hein, alors que si moi, je prenais la tête des Républicains, je peux dire que la Nadine, elle réunirait la droite qui va de Marine Le Pen à Florian Philippot en passant par Marion Maréchal. Voilà.
Mais attendez, vous n'avez cité que l'extrême droite, là.
Mais c'est ça, là. Mais merde. Ouvre les yeux, Leclerc. C'est ça, la droite, aujourd'hui. Vous savez ce que disait le grand philosophe qui vient de nous quitter, là, Michel CRS ?
Non, c'est Michel Serres, hein, s'il vous plaît. Michel Serres.
Moi, je parle de Michel CRS. Un vrai philosophe de droite qui disait « Les Roumains et les sans-papiers, un coup de flashball dans la gueule et ça dégage !»
Ah oui, ça, c'est pas du Michel Serres, effectivement. Hein.
Ouais, tiens, d'ailleurs, à propos de ton Michel Serres, là, oui. Ça y est, monsieur Lagasse ?
De quoi ?
Ben vous pouvez me citer un titre de ses bouquins, Michel Serres.
Le Parasite, mais apparemment, vous ne l'avez pas suffisamment lu. Monsieur Gantou.
Oh là là, il fait le malin. Il fait le malin parce qu'il a Wikipédia sous les yeux. C'est n'importe quoi.
Allez, on va revenir sur cette sombre affaire. La star du football Neymar est accusée de viol par une jeune femme brésilienne. Le footballeur aurait fait payer par son assistant les billets d'avion de la plaignante. Tiens, bonjour Ségolène Royal, vous vouliez réagir à cette info, vous, hein ?
Sans loup-port, Neymar, coupable, ognouf le brésilien dit couloré.
Attendez, Madame Royale, pour l'instant, on en est juste au stade de l'enquête. Hein. On ne sait rien de l'affaire, en fait.
Mais je ne vous parle pas du fond de l'affaire. Je vous parle du comportement anti-écologique de Monsieur Némor. Hein. Bravo l'empreinte carbone de cet aller-retour pays à cette demoiselle. Pourri Rio, Rio pourri. Tout ça pour un coup de enfin, vous avez compris. Oui, en tout cas, Monsieur Aliagas a compris, lui. C'est scandaleux, Monsieur Némor.
Oui, elle a raison, c'est pas écologique. Elle a raison, c'est qu'on est en Royal. En 2050, 8 semaines de calicule, on va tous crever. Vive Europe 1, oui, enfin, on va crever. Écoutez la radio qui nous donne la pêche.
Oui, non, attendez. Et c'est peut-être pas non plus ce qu'il y a de plus choquant dans cette affaire, hein, l'empreinte carbone et tout ça. Mais non.
Si, ce qui me choque, moi, car je suis choqué. Oui, je suis choqué.
Choquette.
Oui, c'est ça, j'étais sûr que dès qu'il y a de la bouffe, il était choqué. Je suis choqué par le mépris de Monsieur Némor pour le Made in France, hein, pour la michto française. Elle est passée bien pour vous, la michto française. Je ne vous salue pas, Monsieur Némor.
Tous les hauts. Merci Ségolène Royal, à très bientôt. Allez, ne restait hier que deux Français dans le tournoi de Roland-Garros et aujourd'hui, il n'y en a plus. On est en duplex avec Nelson Monfort sur place.
Et quelle déception. Mes salutations à Corinne Velou, quelle déception. What a carrière, Florent Wauquiez. Les deux Français ont perdu, mais Benoît Paire, également fils, ont commis une terrible imprudence hier. Ils ont joué. Du coup, finalement, c'est terminé pour eux. Là, la conséquence, c'est qu'on va assister à des matchs de qualité sans aucun Français pour venir les gâcher en foutant des balles dans le filet ou dans les dents d'un spectateur. Voilà, Roland Garros peut enfin commencer.
Benoît Paire a pourtant frôlé l'exploit en menant 5-3 contre le japonais Nishikori.
Oui, tout à fait. C'est donc le deuxième exploit de Benoît Paire. Le premier était d'être sorti avec la chanteuse Shaim. C'est quand même que autre chose que de gagner un saladier. Bref, je sais de quoi je parle. Benoît a servi à 5-3 pour le gain du match. Et là, il fallait tout le talent de Benoît pour retourner le match en sa défaveur et perdre au final. C'est la marque. Des très très grands.
Eh ben, on a encore été déçus par les tennismen français, Nelson.
Ah non, chère Julie, pardonnez-moi cette trivialité, cette familiarité. Non, Julie, car les joueurs français sont les joueurs préférés du sponsor BNP Paris. Avec le nombre de balles qu'ils envoient dans les bâches, c'est grâce à eux qu'on voit aussi bien les bâches à la télé. Comme tous les ans, je suice donc le dernier français en lice à Roland-Garros. À vous les studios.
Nicolas
Coquenou
sur Europe 1. Merci beaucoup et merci aux auteurs Laurent Vassilian, Arnaud Demange, Philippe Cavrivière. Et justement, un message de Philippe Cavrivière, parrain de l'association Léo, qui vient en aide aux enfants atteints de cancer en téléphonant 04 94 95 55 55 04 94 95 55 55 ou en tapant HOPE, espoir en anglais, H-O-P-E sur Ticketnet. Vous pouvez réserver votre billet pour le spectacle HOPE qui se déroulera le 20 juin à Fréjus dans le Var, un spectacle unique avec Michel Drucker, l'humoriste Florent Paire. Il compte sur vous, c'est pour la bonne cause, pour l'association Léo. Le tour de la question, Wendy Bouchard arrive à partir de 9h, 2h, deux thèmes exploités, enfin partagés.
Absolument,
avec les
chers amis, bonjour à tous. Le premier, c'est que le député en ce moment examine la loi mobilité. Certains réclament la fermeture de dizaines de vols intérieurs pour limiter la pollution. Alors le train vous semble-t-il la solution d'avenir? Mais simplement, vous avez vu le prix de certains billets aussi. Est-ce qu'ils sont aujourd'hui un obstacle pour vous à la mobilité? On en parle avec Delphine Bateau, Pascal Perry et un spécialiste de la SNCF. Puis à 10h, on va parler des mensonges, des menteurs, des fraudeurs, des falsificateurs, des mythificateurs.
Oh,
des mythomanes, il y a des degrés dans le mensonge, c'est quelque chose, voilà. C'est probablement la chose du monde la plus partagée, mais pourquoi on ment et quelles limites on se fixe? On parle de tout ça avec un psychanalyste, monsieur, tout à l'heure.
Une heure suffira?
Oh. Pas du tout toute la vérité, en tout cas.
En tout cas, on a parlé, justement, de Delphine Bateau ce matin, vous avez entendu.
Absolument.
Avec Jean-Michel Apathy qui est à vos côtés, il peut revenir, hein, si vous voulez revenir pour le débat.
Mais je vais l'écouter avec attention.
dans le taxi, parce que je crois qu'il a un rendez-vous. À tout de suite,
Wendy Bouchard. Merci beaucoup, et vous appelle au 3921.
Et à suivre la météo et l'essentiel de la matinale juste avant 9h sur Europe 1.
Il est 8h56 à suivre l'essentiel de la matinale, mais tout de suite la météo, Nikos, avec Laurent Cabrol.
Mon cher Laurent Cabrol, il y a de l'orage dans l'air.
Oui, allez, un petit tour d'horizon rapide de ce qui vous attend, chers amis. Bretagne, Cotentin, Pays de la Loire et Poitou-Charentes, des nuages, des pluies espacées et peu d'orage dans cette partie du pays. Mais sur le nord Picardie, la Haute-Normandie, la région parisienne, la Champagne-Ardenne, le centre et la Touraine, là vous serez soumis à des orages assez violents, surtout en fin de journée, et en particulier sur la capitale, plutôt à l'est de la capitale. Donc Aquitaine, Béarn, c'est d'appui qui va remonter vers le Midi-Pyrénées. Et puis des régions à l'abri, provisoirement, Lorraine, Alsace, Bourgogne, Rhône-Alpes, Franche-Comté, Massif Central et Bassin Méditerranéen. Dans ces régions, soleil et chaleur pour tous, 31 à 34 degrés, alors que la moyenne nationale va s'établir entre 23 et 28. Il fera encore chaud et ce sera une journée un peu difficile à vivre, mais en passant entre les gouttes, ça ira bien.
On fera attention. Merci Laurent Cabrol. À tout à l'heure.
Nous sommes le mardi 4 juin. On revient sur les moments forts de cette matinale, Nikos Aliagas.
Avez-vous déclaré vos revenus en ligne? Nous avions jusqu'à ce soir pour le faire, mais un délai vient d'être accordé jusqu'à jeudi soir, minuit. En cause, le blocage du site internet des finances publiques qui est tombé en panne, tout simplement. 3 millions de connexions en 30 minutes hier soir, des Français qui remplissent leur déclaration au dernier moment. Comme Olivier, écoutez, c'était dans le journal de 8h.
J'ai essayé de me connecter au site des impôts parce que j'étais évidemment complètement à la bourre en retard. Ça marchait pas. Message d'erreur qui m'indiquait que le site n'était pas accessible. C'est déjà pas agréable de devoir remplir sa déclaration d'impôt, mais en plus quand on doit faire face à des problèmes informatiques, ça agace. Je me suis dit qu'on était quand même un peuple assez étonnant de procrastinateurs. Ça aide beaucoup à le faire ça à la dernière minute.
30 ans après la répression sanglante de Tiananmen, je recevais ce matin un invité exceptionnel, l'écrivain dissident emprisonné pendant plusieurs années, Liao Yiwu. Il était exilé en Allemagne, il est exilé en Allemagne, on connaît tous la photo de Wang Weiling, vous savez cet étudiant qui faisait face au char, mais moins l'histoire de centaines d'autres victimes. Et dans le plus grand secret, Liao Yiwu a compilé leurs témoignages, il les publie dans son livre « Des balles et de l'opium » aux éditions du Globe. Écoutez, c'était à 7h45.
Il y a beaucoup de gens qui ressemblent à ce Wang Weilin. Eux aussi ont empêché l'armée d'entrer dans Pékin. Ils ont bravé le destin des chars et des mitraillettes. C'était des vrais héros. Ils ont fait beaucoup, beaucoup d'années de prison. Ils ne regrettent rien. Mais ces malheureux héros sont des héros sans résultat.
Merci à tous de nous avoir suivis ce matin. Merci de votre fidélité. Prenez soin de vous. Bonne journée à l'écoute d'Europe 1. Rendez-vous demain. Elle arrive, Wendy Bouchard, avec ses invités et ses deux heures passionnantes de débat et de partage. Ça commence dans quelques secondes.
Merci Nico, à demain.
Bonne journée Julie, bonne journée Céline.